Il aime se définir comme une machine humaine, et les chiffres lui donnent raison. Il a investi dans plus de 1000 startups, est père de 3 enfants, et se qualifiera bientôt pour les championnats du monde d'Ironman. Jean de La Roche-Brochard est un dynamiteur de non-sens, toujours en quête d'optimisation pour nourrir son obsession de l'excellence. Mais derrière le performeur, c'est surtout un homme authentique et juste, qui cherche à mettre de l'intensité dans chaque minute qu'il entame, sans jamais oublier que la vie est un jeu. Rien n'est grave, sauf de la perdre. Toujours en train d'approfondir sa connaissance de lui-même, il explore sa conscience dans le sport autant que dans ses interactions aux autres, où il tâche de donner plus qu'il ne reçoit. D'un pragmatisme chirurgical, il croit aussi au karma et à l'intuition. Une leçon d'efficacité autant que de vie. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, start-upper, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute. Salut Jean.
Salut David.
Écoute, tu me disais que tu étais papa de trois garçons, c'est ça ?
Deux garçons et une fille. On a eu 13, 11, deux garçons et puis une fille qui a 10 ans. Ma femme m'avait dit, si le troisième c'est un garçon, il va falloir qu'on réfléchisse au quatrième. Moi, je t'avoue que trois, je me disais que c'était déjà pas mal, quoi.
On a eu la même réflexion avec ma femme, mais donc on s'est arrêté à deux filles. Et donc, papa, investisseur dans plus de 1000 startups, Ironman, ouais. C'est quoi un peu la morning routine d'une machine humaine ? T'as fait quoi ce matin ?
Ce matin, je me suis levé comme tous les matins à 7h, pile. À 7h05-10, normalement, je suis en bas dans la cuisine et je prépare le café de ma femme et mon café et les tartines des enfants. Donc, le rituel, c'est je mets des tartines à griller et puis tu as du peanut butter, la pâte à tartiner Théo et Bia, du beurre, des confitures et je demande qui veut quoi. Et tous les matins, ça change. Et donc, je fais des tartines. Ça fait 10, 15, 20 minutes. Et puis après, à 7h40, c'est départ pour l'école. Donc, le lundi, c'est moi. Quand je suis là un peu plus longtemps dans la semaine, j'essaie d'y aller le vendredi. Le mardi, c'est ma femme. Le mercredi aussi. Jeudi, ils y vont avec une navette. Et puis, voilà. Et à 7h45, en fait, moi, ma journée démarre. Et donc, elle démarre soit par le sport, soit par les emails. Parce que je fais pas de rendez-vous le matin. Donc le matin, c'est une phase productive. Et quand je fais du sport, généralement le matin d'ailleurs, c'est plutôt du sport que je fais de manière en endurance. Et là, par exemple, ce matin, je me suis levé, j'avais 150 emails. Bah, à la fin de mon vélo, il m'en restait plus que 13. Hein, quoi.
Ouais, après, il faut dire que pour toi, la gestion des emails fait complètement partie de ton métier puisque tu passes ton temps à être sollicité. Mais cette reprise de contrôle, je trouve, de l'organisation de nos journées, notamment en différenciant ce qui est important de ce qui est urgent, pour moi, ça a été un véritable game changer. Et comme toi, je me sens beaucoup plus intelligent le matin que l'après-midi. Donc, moi, tout ce qui est sollicitation externe, donc les mails en font partie. Je les réserve à l'après, mais puis le matin, je me cale des sessions de deep work où je travaille vraiment sur ce qui est important pour mon business, pour avancer sur les choses vraiment fondamentales et de fond, quoi.
Et tu te laisses distraire pendant ces périodes-là ?
Non, et d'ailleurs, j'utilise même des technologies pour me protéger de la technologie, en l'espèce de Colter Key, que tu connais peut-être, qui me permet justement de bloquer l'accès à mes mails, parce que j'ai une petite addiction à mes mails. Et puis, heureusement, sur la partie WhatsApp, Instagram, etc., et LinkedIn, je suis un dinosaure, donc assez peu sensible à ces sollicitations externes.
Parfait.
Et t'as toujours eu, toi, cette organisation hyper pragmatique de tes journées, ou c'est quelque chose que t'as développé avec le temps, avec l'âge peut-être et l'énergie diminuant ?
Je pense qu'il y avait un facteur qui est arrivé très tôt, moi, dans ma jeunesse, que quand j'étais petit, les gens me disaient « tu veux faire quoi dans ta vie ?» Et moi, je disais toujours « je vais devenir optimisateur ». Ils me disaient « mais optimisateur, ça n'existe pas, Jean, c'est pas possible ». Je dis, bah si, regarde, il y a plein de trucs qui pourraient être optimisés, qui pourraient être mieux faits et tout. Les gens, ils sont là, ils font les choses en mode automatique, sans se poser la question de pourquoi ça existe. Je suis sûr qu'on peut faire mieux. Plus tard, je serai optimisateur. Donc, tu vois, quand tu as 10 ans, tu veux être optimisateur. Bon, moi, du coup, j'ai compris que le métier d'optimisateur, il marchait moyen quand même. Mais que ça m'empêchait pas d'optimiser, moi, ma vie et mes journées. Et en fait, le vrai déclic... Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu es à l'école, quand tu es dans la vie... universitaire ou en grande école ou la vie après professionnelle, tu te fais prendre par le flow de manière automatique. En fait. À aucun moment tu te poses en te disant est-ce que ce que je fais c'est vraiment la manière dont je devrais le faire ? Combien de temps je passe ? Quelle intensité je passe ? Quels sont les stakeholders, etc. Tu te poses jamais comme ça en fait. Tu avances un peu en mode automatique. Et en fait, quand je suis arrivé chez Klima en 2015, là tout d'un coup j'ai eu beaucoup 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 de sollicitations et je me suis fait dépasser en fait par les sollicitations. Et donc, je pouvais pas fonctionner en mode automatique. Il fallait que je fonctionne de manière beaucoup plus intentionnelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à prendre conscience du temps, de l'action, de comment des interactions, etc. Et là, et puis les choses se sont en fait goupillées étape par étape. Ça sert à rien de faire les choses en grand tout de suite. Mais au début, ben, j'ai réduit les durées de mes rendez-vous. Après, je les ai fait que l'après-midi. Ensuite, j'ai réduit aussi mes déjeuners. Après, j'ai aussi géré les raccourcis clavier pour mes applications, pour mes emails. Et puis, etc., etc. Et au fur et à mesure, je suis arrivé à un point où à la fois c'est très optimisé, mais c'est parce que c'est très optimisé que c'est aussi très humanisé. C'est ça qui me permet d'avoir le temps de voir les gens de manière un peu opportuniste, d'échanger sur des sujets auxquels j'aurais pas pensé avant, mais j'ai l'esprit libre pour le faire, etc., etc. Et c'est ce qui me donne le temps aussi de faire du sport, tu vois, par exemple.
J'interromps ce podcast pour te partager deux techniques flash que tout le monde devrait connaître. La première, le soupir physiologique, est validée par Harvard comme l'outil le plus rapide et le plus efficace pour réguler le stress. La seconde, Uddiyana Bandha, peut réellement améliorer ta digestion et la qualité d'assimilation des nutriments. Je t'explique comment les pratiquer dans ma newsletter gratuite, dont le lien est en description. Alors mets cet épisode sur pause, abonne-toi et reviens ensuite.
Ouais, et je trouve intéressant parce que tu vois dans ces contextes souvent la contrainte naît l'innovation. Et donc le fait de réduire les plages de temps, là par exemple tu parlais de tes calls, de tes meetings que tu avais volontairement réduits, eh ben ça t'oblige à être de fait beaucoup plus efficace pour certaines autres tâches, peut-être à mettre en place des process, à gérer des boucles avec des problèmes récurrents de façon plus efficace. Moi, tu vois, j'ai des créneaux déterminés pour gérer mes mails, par exemple. Au début, ça a été difficile parce que j'avais du mal à m'y cantonner. Et en réalité, grâce à ça, j'ai optimisé un tas de choses qui rendent mes process aujourd'hui beaucoup plus efficaces.
Ouais, je vais te donner deux exemples concrets pour ton audience. La première, c'est moi, mes rendez-vous avec des entrepreneurs. Mes premiers rendez-vous durent généralement une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes, les gens se disent, mais c'est terriblement court. Et en fait, cette contrainte, elle fait que tout de suite, il y a de l'intensité dans le temps qu'on partage avec l'entrepreneur. Et il faut rarement plus d'un quart d'heure. Moi, je dis souvent, il te faut 1 minute pour faire une bonne impression, 5 minutes pour être crédible et 15 minutes pour convaincre. Et donc, t'as pas besoin de beaucoup plus. Et tu vois, ça veut dire qu'en 1 heure, tu fais 3 rendez-vous, là où beaucoup d'investisseurs vont passer 1 heure de rendez-vous avec des entrepreneurs et laisser, en fait, le temps filer. Et c'est pas top, quoi. Et là, j'ai la même chose sur un board où on a un sujet avec une de nos boîtes. On a 5 personnes autour de la table. Et en fait, ce que tu cherches, c'est de manière assez organique, est-ce que les tâches se dispatchent correctement entre chacune des personnes. Et ensuite, chacun a son pré-carré, enfin ses fonctions, et on reporte les uns aux autres, et ça fonctionne très bien. Mais de temps en temps, tu vas te retrouver avec des gens en fait qui veulent mettre les pieds dedans tout le temps, toujours en rajouter, complexifier la chose, et donc après, finalement, tu n'arrives à aucun résultat. Alors qu'il faut laisser aussi, il faut arriver à créer cette mayonnaise qui fait que les choses se font de manière un peu magique, un peu automatique. Moi, j'aime bien dire de manière organique. Moi, je fais mon métier parce qu'il est très organique. Et c'est ça qui me fait kiffer.
Ouais, d'ailleurs, tu sais, on parle beaucoup de biomimétisme et souvent pour des innovations technologiques, alors qu'on peut très bien aussi s'inspirer de la nature pour le fonctionnement de nos organisations, tu vois. Même de notre couple. Moi, j'ai l'impression d'avoir un couple très organique où plutôt que de chercher l'égalité parfaite entre la répartition des tâches, ben on essaie chacun de partager nos forces pour que l'organisme qu'on crée par notre union soit plus fort. Et tu dis qu'en 20 minutes, tu arrives à prendre une décision. Ça veut dire que c'est des décisions qui sont plutôt basées sur l'intuition que sur le pragmatisme.
Les deux finalement finissent par se rencontrer parce que plus tu passes de temps avec des entrepreneurs, plus
Bien sûr.
ton système automatique en fait se développe et donc tu restes quand même assez pragmatique malgré le fait que tu suis ton intuition. La force de Kima, c'est comme on fait une centaine de deals par an, ça veut dire que parfois on va faire des deals par optionnalité parce qu'on pense qu'il y a que ça peut marcher, même si la conviction n'est pas parfaite. Et ensuite, 20 minutes, c'est le temps pour me faire une première opinion. Je dis pas que c'est parfait. Parfois, je vais faire un deuxième call. Parfois, je vais l'envoyer à quelqu'un dans l'équipe. Et puis, on va faire un deuxième call avec l'entrepreneur. Mais 20 minutes, c'est la bonne première interaction, surtout quand tu es en remote, quoi. Donc, quand je suis à Paris, généralement, et que je rencontre les entrepreneurs, on va plutôt passer entre 30 et 45 minutes. Parce que s'ils se déplacent, c'est pour leur donner suffisamment de temps. Et donc aussi, tu fais attention à ceux qui se déplacent et à ceux avec qui tu veux échanger en Zoom.
Nassim Nicolas Taleb te donnerait raison parce que il a généralement montré qu'une faible quantité d'informations t'aidait à fonder des décisions de qualité, mais qu'en avoir plus entretenait simplement ton biais de confirmation, donc n'influait pas sur la qualité de ta décision, mais seulement dans ta confiance en celle-ci, et donc te rendait un petit peu plus con.
J'adore. Écoute, je suis persuadé de ça. Ce qu'il faut juste, c'est quand tu as pris une décision très vite, c'est tu cherches pas à avoir une information complète après et t'es très exhaustive, mais essayer de trouver les 2-3 marqueurs qui justement font partie de ton billet de sélection et sur lequel il faut que tu confirmes ou au contraire que tu contre lesquels il faut aller, quoi.
C'est quoi les 2-3 marqueurs que tu regardes alors?
Je suis en train de réfléchir aux entrepreneurs avec qui on a discuté récemment, mais par exemple, tu as des entrepreneurs qui ont très très bonne réputation, qui vont lever de l'argent, et en fait, leur réputation, en fait, elle a déjà joué un rôle sur la décision que tu as envie de prendre. Donc, c'est hyper difficile de s'en détacher parce qu'ils vont te pitcher. Tu vas peut-être pas être très convaincu, mais tu vas vouloir te convaincre toi-même parce que tout le monde a été convaincu à côté de toi. Donc, ça, c'est le principe du FOMO, hein, tu vois, fear of missing out, c'est un truc assez basique. La deuxième chose, c'est l'entrepreneur que tu as envie de croire parce que tu aimes le sujet en fait sur lequel il est. Donc tu peux avoir un ou une entrepreneur qui est sur un sujet qui t'excite beaucoup et en fait tu as envie d'y aller quoi parce que le sujet t'excite. Et donc tu as envie de te convaincre que c'est la bonne personne. Et après tu as les entrepreneurs qui sont sur des sujets tu trouves que l'entrepreneur est pas mal, qu'il l'adresse mal et donc là pour le coup du coup tu backs l'entrepreneur mais tu backs pas le sujet. Et la question, c'est est-ce qu'il va y avoir à un moment donné un match entre les deux? Et puis un dernier, c'est le billet c'est l'investisseur qui pitche la boîte mieux que l'entrepreneur lui-même ou elle-même. Ça, c'est un grand classique, ça. Et il ne faut pas se laisser attraper par ça. Tu vois, le fantasme d'une boîte que tu crois, tu te dis, ah, j'en ai toujours rêvé d'une boîte comme ça. Faut faire deux fois. Hein.
Et entre l'idée et l'entrepreneur, qu'est-ce qui prime pour toi?
L'entrepreneur, à 99%. L'idée, je ne dis pas qu'on s'en fout, mais. Nous, nos bons entrepreneurs pivotent, nos idées, elles pivotent pas trop.
Et d'ailleurs, tu sais, j'ai le sentiment que notre société promeut surtout l'hyperspécialisation. Tu vois, tu fais des études sur un certain sujet. D'ailleurs, à un moment dans ta vie où tu n'avais pas forcément assez de connaissances en toi-même et en ta nature profonde pour choisir une voie qui est susceptible de t'épanouir. Et quoi qu'il en soit, tu fais ces études et puis après, tu vas monter dans ta carrière et te spécialiser de plus en plus fort dans ton domaine de compétences, ce qui probablement est dangereux dans un monde qui évolue de plus en plus vite et puis peut-être demain dominé par l'intelligence artificielle. Et à l'opposé de ça, tu as le principe de monopole personnel qui voit la réunion de tes talents naturels, de tes passions, de tes compétences, de ton expérience de vie. Et voilà, et ça fait une espèce de melting pot. Et cette interaction, cette intersection est unique, tu vois, et te rend unique aux yeux du monde et de la société. Toi, en fait, tu es un super généraliste. Ton métier, c'est de switcher et d'être capable d'avoir une vision agnostique sur des centaines, des milliers de sujets différents sans avoir le temps de les creuser chacun les uns les autres. J'imagine que ça donne une espèce de lunettes particulières avec lesquelles tu peux regarder le monde, avec lesquelles tu peux regarder la société, avec lesquelles tu peux regarder les hommes. Comment est-ce que tu vois se structurer justement l'homme et son avenir, l'avenir de la société?
C'est une bonne question, ça j'ai jamais pensé. Moi, la raison pour laquelle je suis un excellent généraliste, et pourquoi aussi je pense pas trop mal me démerder dans mon métier, c'est donc la première chose, c'est comme je suis assez. À l'école, en fait, j'aimais pas trop ça, j'étais de nature bordélique, et puis je me faisais chier, et puis j'arrivais pas à rentrer dans le moule, et puis j'arrivais pas à me concentrer. Du coup, tu développes un gros, gros esprit de synthèse. Parce que si tu développes pas d'esprit de synthèse, en fait, t'es mort, quoi. T'avances pas. Donc, l'esprit de synthèse, évidemment, il fait aussi que tu arrives à hop, rapidement voir les détails, etc. Mais tu n'as pas envie de trop te creuser dans les détails non plus. Donc, c'est évidemment un piège à double tranchant. Mais donc, ça fait tout un bon généraliste. La deuxième chose, c'est que en bonne introvertie de nature, quand j'étais jeune, moi, j'ai passé beaucoup de temps à écouter. Donc, je pense que j'ai une bonne sensibilité aux gens. Et donc, la bonne sensibilité aux gens fait que quand j'échange avec eux, en fait, ça connecte. Donc, ce bon esprit de synthèse mêlé à cette bonne connexion, tu vois, avec les individus, fait que... Je sais pourquoi je fais ce métier-là. Je ne sais pas dans quel sens avance la société. Ce qui est certain, c'est que tu as un sujet qu'on aborde peu à l'école, pas assez en tout cas, et peu après dans les études que tu fais. C'est quel est le caractère que tu as fondamentalement et à quoi tu vas l'appliquer. Parce qu'on a des... Tu vois, on est... Si tu as un caractère qui est plutôt je sais pas, genre tourner vers les détails, plutôt pessimiste, plutôt casse-couille. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Mais dans ces cas-là, il faut que tu ailles faire du retournement, ou il faut que tu ailles faire du private equity, ou il faut que tu ailles faire du late stage. Faut pas que tu fasses de l'amorçage, tu vois. C'est pas bon. T'es pas dans le bon, t'es pas dans le bon, dans le bon moule. Si t'es quelqu'un de plutôt manuel, tu vas t'asseoir derrière un bureau, c'est pas bon, et l'inverse aussi. Donc, je pense que la société, ce vers quoi elle doit se diriger, c'est plutôt vers l'harmonie de qui on est fondamentalement et vers quoi on se tourne et sur quoi on bosse, quoi. Et donc là, on a du boulot parce que malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup à l'école.
C'est marrant parce que la plupart des gens se fondent plutôt sur leurs qualités, sur leurs talents naturels pour choisir ce vers quoi ils ont proportion à tendre. Alors que là, ce que tu m'as cité, c'est plutôt ce qu'on voit généralement comme des défauts. Toi, tu as plutôt vu tes faiblesses comme des forces.
Moi, j'ai pas vu mes faiblesses comme des forces, mais je sais en quoi mes faiblesses m'ont aidé à développer de grandes forces, et je pense que c'est vrai pour tout le monde en réalité. Et l'inverse fait que bah on a des grandes forces et que ces grandes forces bah donnent-nous à des grandes faiblesses. Voilà. Donc, je sais plus si c'est en physique qu'on dit que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est exactement la même chose pour nos qualités, nos défauts et la manière dont on les utilise, quoi. Et après, il y a des fondamentaux, tu vois. Mais il y a des fondamentaux où moi, donc dans la vie, t'as des gens qui prennent et t'as des gens qui donnent. Moi, j'ai beaucoup de mal enfin, tu vois, je pense que pour recevoir, c'est facile de donner. Pour autant, t'auras toujours des takers dans la vie, et les takers, il faut vivre avec, quoi. Et c'est une certaine catégorie de personnes qui font une certaine catégorie de métiers, qui arrivent à s'entendre avec une certaine catégorie de personnes aussi, etc. Et donc, ouais, tout ça, tout est une question de connaissance de soi.
Et c'est marrant parce que, enfin justement, t'as l'air d'avoir une excellente connaissance de toi. Et tout à l'heure, tu me parlais de cette capacité à observer tes journées, à observer la façon dont ton énergie se dépense pour optimiser tes systèmes. Et puis influer sur le cours du courant. En fait, si tu laisses les choses se faire et que t'es simplement en réaction, eh ben tu te laisses diriger par le courant. Et si tu veux en prendre le contrôle, t'es obligé d'avoir une observation claire de tout ça. Moi, j'aime bien faire des revues journalières. Donc, fin de journée, j'aime bien observer ma journée, voir ce que j'ai fait sur les actions que je m'étais fixées, réfléchir à mes tops, à mes flops, noter quelques réflexions, une sorte de pratique de journaling. Et puis, je le fais aussi de façon hebdomadaire, mensuelle et annuelle, avec des questions différentes à chaque fois. Et ça me permet d'optimiser des systèmes, mes systèmes d'organisation, mes process, etc. Mais ça me permet aussi d'investiguer la façon dont je réagis face à telle ou telle situation, ma connaissance de moi, ce vers quoi, tu vois, quand tu observes ton énergie, tu t'aperçois qu'il y a des choses, des tâches qui sont dans tes zones de génie et qui te donnent de l'énergie, d'autres à l'inverse qui t'en drainent parce que t'es probablement ni le meilleur, ni le plus passionné pour les effectuer. Peut-être que tu aurais intérêt à les sous-traiter par ailleurs. Tu te rends compte aussi qu'il y a des gens avec qui tu interagis et qui te donnent cette énergie, d'autres qui t'en drainent. Enfin voilà, tout ça au final, j'ai l'impression, sont autant d'indices qui te permettent de mieux te comprendre et puis de modifier l'organisation de ta vie, l'organisation de tes journées, ce dans quoi justement tu décides de fonder et d'impliquer ton intelligence. Toi, quels outils tu utilises justement pour choisir la courbe de ton destin et puis continuer cette introspection et cette connaissance fine de ta personnalité?
C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu es dans une catégorie dans laquelle je ne serai jamais. Tu vois, tu as une capacité à un moment donné. Moi, j'ai un stylo dans la main là. Je ne l'ai jamais utilisé, ce stylo. D'ailleurs, je n'ai jamais utilisé de stylo. Je prenais pas de notes à l'école. Je dessinais vaguement. J'avais du mal. Et à chaque fois que j'ai ouvert une app de to-do ou de notes, etc., en fait, je m'en sors pas. Donc, sur mon iPhone, j'ai sur le home screen mes rappels avec les trois derniers items de mes rappels. Mais c'est plus pour un système d'urgence que vraiment un système de notes. Et sur ce truc-là, c'est peut-être la seule chose que je note vraiment. Le reste, et je te parlais de choses que je fais de manière organique, tout se fait de manière organique. J'ai décidé que les rendez-vous seraient 20 minutes, j'ai mis en place un calendrier pour ça, j'ai décidé que je ferai mon inbox zéro au moins une fois par semaine, si ce n'est deux, et je m'organise pour ça aussi, etc., etc. Et en fait, moi, je modifie un peu au fil de l'eau, et chaque semaine, elle me donne la gouache parce que j'ai eu un nombre d'interactions de qualité suffisante parce que j'ai l'impression d'avoir avancé sur des sujets et parce que j'ai l'impression de continuer à défendre les valeurs pour lesquelles je fais ce que je fais. Et ce truc-là, il est important. Donc, c'est marrant parce que je pense qu'il faut se déstresser quand on est bordélique ou pas organisé ou qu'on n'a pas l'habitude de prendre des notes et de faire trop de deep work, etc., comme tu disais tout à l'heure. Il faut se déstresser de ça. C'est pas parce qu'on est bordélique ou qu'on ne prend pas de notes ou qu'on a peu d'outils qu'on ne peut pas mieux s'organiser. Et à l'inverse, quand on a la chance d'aimer le papier ou d'aimer les outils, d'aimer prendre des notes, etc., on n'a aucune excuse pour pas s'améliorer. Mais il faut pas tomber dans le travers des gens que je vois qui utilisent des apps, tu sais, de mind mapping et tout. C'est comme les gens qui mettent du stabilo sur leurs bouquins. Je veux savoir ces gens-là qui mettent le stabilo sur le bouquin. Est-ce qu'ils retournent sur la page sur laquelle ils ont mis le stabilo, tu vois? Il y en a pas beaucoup. Et en fait, quand tu fais du mind mapping, c'est pareil. Tu mind map parce que ça t'aide. Est-ce que tu y reviens beaucoup? Non. Et donc, il faut pas tomber dans l'extrême. Moi, dans mon cas, bordélique, où en fait, j'ai décidé d'abandonner, tu vois, genre le fait que je pouvais être organisé, ou je pouvais être organisé, que je pouvais être rigoureux. Non. Régulièrement, je me bute à essayer de faire les choses de manière un peu plus rigoureuse que la veille. Et à l'inverse, quand t'es extrêmement organisé dans le détail et tout, il faut pas tomber dans le travers de mettre ça à toutes les sauces, quoi. Et donc, il y a un équilibre à trouver.
Ouais, je suis d'accord, c'est sympa d'avoir cet exemple de gestion un peu freestyle, même s'il y a quand même des grandes règles que tu respectes, parce que c'est pas celle qui est promue et qui est la plus entendue, et en même temps c'est rassurant pour ceux qui ont ce type de fonctionnement là. Après, tu vois, moi j'ai le sentiment que tout est stresseur, pas dans le sens négatif du terme, mais que tu vois, tout potentiellement est une charge cognitive, les choses positives comme les choses négatives, tu vois. Mm-hmm. Par exemple, le fait de faire du sport, ben c'est un stress positif certes, mais c'est quand même un stress, c'est une charge pour mon organisme, etc. Et comme je suis quelqu'un de passionné et que j'ai une vie, je pense que j'ai une tendance hyperactive, j'essaie au maximum de contrôler mes stresseurs pour choisir mes sources de stress. C'est-à-dire que le fait de savoir que le matin je me lève, j'ai telle routine, je fais tac tac tac, ensuite que ma journée elle est planifiée, que ce matin j'ai décidé de travailler sur tel projet et que je me focus là-dessus parce que c'est le truc qui est important pour moi actuellement, que l'après-midi je vais traiter mes mails, etc., et puis qu'après je vais m'accorder un petit temps dédié à la formation, puis qu'après j'irai faire mon sport et que je m'occuperai de mes enfants, tu vois, cette organisation assez militaire clairement réduit énormément, j'ai l'impression, la charge cognitive liée à la prise de décision, liée aussi à la peur d'oublier des choses, dans le sens où quand t'as toujours plein d'idées dans ton cerveau, le fait de les noter, quelque part, ça t'en libère. Donc j'ai un vide cerveau, par exemple, ça doit être l'application qui me sert le plus, c'est mon vide cerveau où je note tout, tu vois, les trucs que je dois pas oublier, les nouvelles idées que j'ai, etc. Et puis comme ça, je dois pas arrêter la tâche que je suis en train de faire pour aller la noter, paf, je la mets juste de côté puis je la regarderai plus tard. Et donc tu vois, tu peux extrapoler d'ailleurs cette vision là à tout, à la nourriture, à la qualité de l'air que tu respires. Enfin, tu vois, j'ai envie de marcher sur les lignes de crête. Je sais que par la vie que je mène, il suffit d'une petite bourrasque pour tomber d'un côté ou de l'autre. Donc mm-hmm. Je contrôle tout ce qui est en mon pouvoir pour m'autoriser le fait de faire des choses extrêmes. Et je sais pas si ça te parle, ça. Et ce, d'autant plus, je te dis, je sais pas si ça te parle, en précisant que toi aussi t'es papa, que t'as un job hyper intense et qu'en plus de ça, tu prépares des Ironman, tu me diras à peu près après comment tu t'entraînes, etc. Mais c'est 15 heures d'entraînement par semaine probablement, donc grosse charge de ce niveau-là aussi, donc grosse charge intellectuelle, grosse charge physique et puis vie de famille potentiellement de tourbillonnante.
Moi, j'ai un côté un peu nonchalant où je me dis que rien n'est grave.
Ah, ça, c'est cool. Super pouvoir.
Ouais, super pouvoir et ça me drame au quotidien. Et je dis rien n'est grave parce qu'en fait, comme je suis un ultra pragmatique, par exemple, les gens parlent souvent d'empathie. Moi, je suis plutôt pour la compassion rationnelle, tu vois. C'est-à-dire ressentir ce que les gens ont et puis après aussi mettre de côté ça parce que sinon, ça va te bouffer, quoi. Tu vois, faut faire vachement gaffe à ça. Donc, moi, j'ai un côté ultra rationnel. Donc, ce côté ultra rationnel fait que du coup, j'ai décidé de me créer cette coquille où je me dis que rien n'est grave, que très peu de choses sont graves. Et si tu veux, il y a pas longtemps, on a perdu un de nos collaborateurs chez Free, qui est décédé subitement après une opération assez jeune. Et lui avait des enfants. Ça, c'est grave. Et ça me fait chier. Le reste, des boîtes qui plantent, même dans lesquelles on a mis beaucoup d'argent, ouais, ça me fait super chier. Est-ce qu'on va s'en relever? Oui, parce qu'en fait, dès lors que tu déploies la même intention, la même volonté, la même envie, le même sérieux tous les matins, etc., pas de raison que ça se passe pas, tu vois. Les gens qui se... Enfin, si tu fais pas le job, je comprends que tu te stresses, parce qu'en fait, tu le fais pas le job. Mais si tu fais le job, il faut pas se stresser. Il faut au contraire continuer de se mettre dans cette zone de... c'est pas une zone de nonchalance, parce que c'est pas bien, tu vois. Mais cette zone de sérénité. Et donc, moi, je suis de nature assez sereine. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai pris une décision hyper importante pour ma vie pro, sur laquelle je peux pas aller trop dans les détails, mais qui a un impact matériel pour moi qui est très significatif. Mais c'est une décision qui est beaucoup plus importante pour ma sérénité au quotidien. Et donc, je vais m'en sortir, tu vois, de l'emmerde matérielle que ça me crée. Je vais trouver des solutions. Mais beaucoup de gens me disent « Oh putain, oh là là, c'est courageux de faire ça, c'est dur et tout. » Enfin, oui, mais en même temps, il faut faire des choses qui te donnent de l'énergie, qui te donnent envie. Et j'ai fait ça quand j'ai quitté mon job de leveur de fonds pour aller chez The Family quand ils n'avaient pas de quoi me payer. Et en fait, ça, c'était pas la première fois que je prenais cette décision-là. Et en fait, toutes ces décisions, ouais, elles ont des risques matériels qui sont là. Mais le risque matériel, c'est quoi, en fait? Ça me fait penser à je sais plus qui dans un film qui disait « ce n'est qu'une information », tu vois. Le risque matériel n'est qu'une information. Il faut faire avec cette information. Donc, on est tous différents. Je pense que notre gestion du stress et la manière dont on perçoit ça entre les individus. Moi, j'essaie de réfléchir, mais je crois que je me mets de la pression. Ça, c'est certain. Et ça se voit dans la manière dont je fais les choses. Et pour autant, paradoxalement, j'ai beaucoup de sérénité dans tout ce que je fais. Et la sérénité, c'est un peu comme la connaissance de soi. Je pense que c'est quelque chose vers lequel on doit tous tendre. Il faut surtout pas se laisser bouffer par son intérieur qui vrille de parano ou de stress ou de je ne sais quoi. Et si on est stressé, c'est qu'il y a une raison particulière. Il faut la découvrir, quoi. Mais généralement, c'est qu'on n'a pas trouvé encore sa voie, quoi. On n'est pas encore complètement dedans. Ou qu'il y a un truc qui manque. C'est quelque chose qui gratte. Il faut aller chercher.
Ouais, j'adore ce mindset. J'ai tendance à dire qu'on a la chance inestimable d'être incarné dans un corps pour jouer au grand jeu de la vie. Alors, jouons-y. Et le problème, c'est que souvent, pour réaliser cette chance qu'on a et les responsabilités qui vont avec, eh ben, il faut soit avoir côtoyé la mort soi-même, soit avoir eu les morts proches de nous. Et peut-être que la société de sécurité et de confort dans laquelle on vit ne nous donne pas de référentiel ou de biais de contraste suffisamment fort pour nous prendre conscience de l'urgence de vivre.
Complètement. Je suis persuadé de ça aussi. Mais il y a des gens qui vont vivre ça et qui pourtant ne le réaliseront pas. Hein. Mais bon, évidemment, il faudrait que les gens le réalisent sans avoir besoin de passer à côté de la mort, quoi. Mais c'est souvent comme ça, malheureusement. C'est les grands événements de la vie qui nous transforment.
Hein. Ouais. Et toi alors, si c'est pas indiscret, t'as toujours eu ce mindset où il t'est arrivé des choses quand t'étais jeune qui t'ont permis de le développer?
Qu'est-ce qui m'aurait permis de le développer? Non, parce que tu vois, vendredi, je vais à l'enterrement de ma grand-mère qui était déjà âgée, qui en avait déjà un peu ras-le-bol, qui voulait partir. Je crois qu'elle est contente que ce soit fini, quoi. J'avais mon deuxième fils hier qui me disait avec quelques larmes aux yeux, mais ça te rend pas triste? Et je disais non, ça me rend pas triste, parce qu'en fait, quand je pense à elle, je pense à tous les souvenirs de quand j'étais jeune avec elle. Et donc j'ai plein de très bons souvenirs qui reviennent, et comme c'est des souvenirs qui sont assez lointains et qui sont du coup sont pas actuels, j'ai pas de nostalgie particulière, parce que c'est des moments du passé que je revis avec beaucoup de plaisir, quoi. Et je te disais ça parce que j'étais en train de réfléchir, tu vois, du coup ça me ramène à tous mes souvenirs d'enfance et tout. J'ai pas eu une enfance malheureuse, j'ai pas eu une enfance particulièrement heureuse. Je me suis un peu cherché, quoi. J'ai avancé avec le flow pendant longtemps, en attendant de trouver la ressource qui me permettrait de me driver moi-même. Mais il y a eu des éléments marquants. Ma mère, par exemple, elle m'a toujours dit, et ses amis autour d'elle, et puis les proches autour de moi me disaient toujours, t'es gentil, t'es beau, t'es intelligent. Et en fait, ça m'a toujours donné vachement confiance en moi, mais aussi avec l'humilité de se dire putain, en fait, t'as eu de la chance, tu vois. Donc comme t'as eu de la chance, il faut que t'en fasses quelque chose. Et donc je pense que ça m'a beaucoup aidé, en fait. C'est de te dire Et d'ailleurs, quand les gens me disaient, tu feras quoi plus tard? Et je disais, bah, je serai optimisateur. Je leur disais aussi, si ça marche pas dans la vie, si je suis vraiment une merde, quitte à être une merde, j'irai faire de l'humanitaire quelque part. Parce que ça sert à rien d'être sur Terre, c'est pour servir à rien du tout. Il faut que je fasse autre chose dans ce cas-là. Et donc, tu vois, j'avais toujours, j'ai déjà cette idée-là de rebond. De qu'est-ce que je pouvais faire pour rebondir? Tu vois, ça marchait pas, donc c'est marrant. Mais donc je pense que le fait marquant, c'est la confiance que m'ont donné mes proches quand j'étais petit, malgré le fait que il y avait rien de particulier chez moi qui me démarquait des autres, quoi. Et ouais, ça c'est mon driver numéro un. Et ensuite, je sais pas, le reste se développe. Et il y a pas de grand fait marquant. Mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Bon, j'ai vécu les merdes de la vie de parents divorcés, comme la moitié des gens sur Terre. Tu vois, il y a pas. J'ai fait l'école de manière médiocre, l'université de manière médiocre, comme la moitié des gens aussi. Et puis après, je suis allé me chercher comme la moitié des gens. Et en fait, on a tous un chemin qui en fait est très 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 probablement similaire, sauf que ce qui fait probablement la différence entre toi qui t'épanouis, toi qui ne t'épanouis pas. C'est ta capacité à trouver ta voie et à gagner en sérénité par rapport à qui tu es et ce que tu fais. Et là, par exemple, la décision que j'ai prise récemment, c'est une décision qui est assez lourde de conséquences et qui pourtant, tout d'un coup, me permet de reprendre un souffle d'air et de me remettre avec la même énergie que celle que j'avais auparavant, quoi. Et c'est génial. Et il faut jamais abandonner ça. Mais pour ça, il ne faut pas se mentir à soi-même. Ça, c'est compliqué. On aime bien se raconter des histoires.
T'as un petit peu changé d'avis, du coup, sur ce que tu disais dans Human Machine, où tu prétendais que ce dans quoi tu étais bon était, par définition, ce que tu aimerais, dans le sens où peut-être que, tu vois, c'est ce qu'on pourrait appeler une zone d'excellence, c'est-à-dire que c'est ce dans quoi tu es vraiment bon, mais peut-être que la zone de génie, elle est à la réunion entre ta zone d'excellence et ta passion, ton alignement, ce que tu penses être juste et ce que tu as envie d'apporter au monde. Et je pense qu'il y a un distinguo entre les deux. Moi, sur la première partie de ma vie, j'ai fait des choses dans lesquelles j'étais bon, et c'est vrai que ça t'apporte une forme de gratification, d'excitation, mais peut-être qu'il manque une sorte de sens transcendantal qui crée au bout d'un moment, quand tu commences à grandir et à mieux te connaître, une forme de tension qui est peut-être celle que tu vis d'ailleurs maintenant.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as raison, il faut que les deux se rencontrent à un moment donné. En fait, tu as ce sujet de tu veux que ce dans quoi tu es bon rencontre ce que tu aimes. Mais je pense qu'il faut quand même commencer par ce dans quoi t'es bon, parce qu'en fait c'est là que tu vas c'est une parade contre le fantasme. On adore fantasmer sur des trucs, dire putain ça j'adorerais faire, si seulement je pouvais faire ci, seulement je pouvais faire ça et tout, et en fait on se raconte plein d'histoires. L'avantage c'est que les compétences, ça on peut pas te raconter d'histoire, parce que quand on a des compétences on est bon, on n'est pas bon, quoi. Donc je pense qu'il y a ça, et moi je vois beaucoup de gens tu vois dans leur trentaine qui malheureusement sont pas à leur place dans leur job de manière professionnelle, mais qui continuent de se dire que c'est ça qu'ils doivent faire, parce qu'ils ont toujours fait ça, et que la peur de switcher à 180 degrés leur fait super peur. Moi, je suis à un moment où, en fait, j'aime ce dans quoi je suis bon, et en fait, je suis en train de réfléchir s'il y a à un moment donné un match qui se fait dans l'autre sens. Pas particulièrement, en fait, les deux se sont retrouvés assez vite, quoi. Je sais pas dans quel cadre on a besoin de faire ce pont entre ce qu'on aime et ce qu'on fait bien. Je pense que ça doit se faire assez naturellement. Il y a pas de raison que quand t'es bon quelque part, que ce soit quelque chose qui soit désaligné avec qui tu es profondément. Ce serait très paradoxal. C'est possible peut-être, mais ce serait très paradoxal. Parce que généralement, ça veut dire que c'est un trait fort de ta personnalité. Donc si c'est un trait fort de ta personnalité, c'est quelque chose qui te ressemble, quoi.
Bah, je peux te donner un exemple. Un entrepreneur qui crée une boîte par opportunité, qui est bon dans l'entrepreneuriat, du coup il arrive à la monter à quelques millions, et puis qui s'aperçoit qu'en réalité elle répond pas à ses ambitions profondes, ou en tout cas au rôle qu'il a envie de jouer dans la société. Tu vois, j'ai l'impression que si on reprend un peu l'histoire de la vie, moi j'aime bien dire que
ça c'est intéressant.
J'aime bien dire qu'au début de la vie, l'enfant il va se construire en tant qu'éponge par les exemples de ses parents, de ses professeurs, de ses amis, des parents de ses amis, etc. Après, vers 18 ans, il va multiplier les expériences et les relations pour chercher un peu plus qui il est. Il va continuer sur cette quête jusque 30 ans, et puis à 30 ans, il va peut-être avoir moins de relations et plus profondes parce qu'il saura de mieux en mieux qui il est, quelles sont ses valeurs. Le fait de connaître ses valeurs lui donnera envie d'aligner justement ses zones d'excellence avec son alignement personnel et avec le sens qu'il veut donner à sa vie.
Alors ça c'est intéressant, c'est plutôt le sens que tu veux donner à ta vie à mesure que tu progresses. Donc d'un côté tu as ce dans quoi tu es bon et donc qui te permet de te révéler en tant qu'individu. Probablement que par ce biais là en fait tu atteins un certain niveau de plénitude, de sérénité, enfin tu vois de certaines aises, tu vois, dans qui tu es, dans ta vie, et ce qui te permet du coup de te pencher de manière beaucoup plus profonde et authentique et aussi et vrai, tu vois, dans le reste de ta vie, quoi. Donc notamment avec tes proches, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec les causes que tu défends, etc., etc. Ça c'est intéressant. Et probablement que dans l'autre sens c'est vrai aussi, c'est-à-dire que si tu trouves des gens avec lesquels tu partages les mêmes valeurs et qui t'aide à grandir en tant qu'individu, peut-être que ça peut te permettre d'identifier tes forces et de trouver ta bonne voie aussi, quoi.
Et tu parlais de gens que tu voyais dans un job, et puis tu disais que tu savais pertinemment que c'était pas fait pour eux, mais eux s'y accrochent parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'hyperspécialisation. Le chemin de leur vie est plutôt une autoroute qui a un chemin sinueux, et ils ont du mal à en sortir parce que c'est quelque chose de prévisible pour leur cerveau et par conséquent de sécuritaire. Et toi, pour autant, comment est-ce que tu arrives à détecter qu'ils sont pas à leur place ? Parce que tu les trouves pas heureux ou parce que tu as l'impression qu'ils sont justement pas dans leur zone d'excellence ?
Généralement, c'est parce que je sais à quoi ressemble quelqu'un d'exceptionnel dans leur job, et en fait, ils y sont loin, quoi. Et ils y seront jamais, parce que certains traits de leur caractère font qu'ils n'y sont pas. Et c'est assez flagrant, hein. C'est même dans mon métier, tu vois, dans l'investissement. J'ai des gens qui font l'investissement, que je connais, tu vois, qui font l'investissement dans l'amorçage, dans seed, et qui pourtant sont assez à l'aise avec l'incertitude, dans l'ambiguïté du métier, qui ont besoin de beaucoup se rassurer face aux événements de ces boîtes qui sont en fait des espèces d'objets mouvants, tu vois, avec lesquels tu composes de manière un peu hasardeuse parfois. Je me dis, mais putain, mais pourquoi est-ce que ces personnes-là, en fait, font pas le job au stade d'après ou différemment, ou je ne sais quoi, tu vois. Et je le vois, ils sont à des années-lumière de tous les autres professionnels du secteur qui font ça mieux qu'eux.
Tu dirais que tu es obsédé par l'excellence ? Parce que je pose la question,
ouais.
Parce que...
Obsédé par l'excellence. Non, mais je suis obsédé par l'excellence parce qu'en fait, je suis obsédé à l'idée de tu vois, faut avoir l'envie de faire les choses bien. Et quand tu... C'est comme... Enfin, tu vois, comme on... En fait, je suis pas obsédé par... Exactement. C'est quoi ? Je suis obsédé par l'excellence, mais pas par la réussite. Mm. Je m'en fous que les gens réussissent ou pas. Et quand ils font quelque chose, qu'ils le fassent avec un maximum d'intention, quoi. Et qu'ils le fassent bien, si possible. Donc, je racontais souvent cette histoire, mais quand mon fils avait ses compètes d'escrime, compètes d'escrime, c'est 5 heures. Tu te déplaces dans un stade, il est dimanche, t'as 5 heures de compètes d'escrime. Bon, ben moi, pendant qu'il fait pic-pic, je fais mes emails. Mais c'est quand même un commitment, quoi. Donc, t'arrives là-bas et tu dis à ton gosse, en fait, t'es pas là pour gagner, mais si tu participes, t'es gentil, tu te donnes, quoi. Tu vois, tu fais des choses avec envie, avec force, faut que tu te battes. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Moi, je comprends pas pourquoi les gens viennent bosser le matin si c'est pas pour y mettre les bonnes intentions, quoi. Ça sert à rien dans ces cas-là. Faut aller faire autre chose.
Bon, en fait, ça recolle un petit peu avec ce côté optimisateur. Quand t'adores optimiser les choses, que ce soit matériel ou humaine, eh ben, t'as tendance peut-être à fantasmer ou idéaliser une situation telle qu'elle pourrait être plutôt que telle qu'elle est.
Complètement. Mais en même temps, moi, je passe mon temps à financer des boîtes qui sont bourrées d'imperfections et ça me dérange pas.
Oui, mais peut-être parce que tu sais comment est-ce qu'elles pourraient tendre vers la perfection.
Je sais pas, je pense que parce que, en fait, je connais les forces et les faiblesses des entrepreneurs qu'on finance. Et donc, moi, mon obsession, plutôt mon rêve à chaque fois, c'est de s'assurer que l'entrepreneur arrive à pallier ses faiblesses en s'entourant des bonnes personnes. Parce qu'un bon entrepreneur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui met du rythme. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir une start-up, parce que c'est ça qui te différencie de quelque chose d'un peu plus gros, tu vois. Deux, il faut de l'adaptabilité, parce que tu commences de zéro et en fait, tu vois, tous les chemins te mèneront potentiellement au succès, donc il faut savoir s'adapter. Et trois, bah, savoir s'entourer, quoi. Et donc, moi, les gens qui, donc, tous les entrepreneurs que je finance, en fait, ce qui me plaît, c'est qu'ils s'entourent de gens qui arrivent, tu vois, à combler correctement leurs lacunes, pour mieux avancer.
Tu te vois plus comme un investisseur ou comme un coach?
Non, pas comme un coach. Alors, pas comme un coach, parce que le job d'un coach, c'est vraiment un job de d'abnégation où tu fais attention au rapport que tu installes avec la personne. C'est un rapport qui est confidentiel. C'est un rapport qui doit être transactionnel pour pas être trop émotif. C'est un rapport sur lequel il faut que tu aies un objectif donné. C'est un rapport qui, en fait, est quand même assez structuré, le rapport de coaching. Si dans le coaching, t'es pas assez structuré, malheureusement, tu peux vite tourner, en fait, dans une pratique qui est pas assez encadrée et qui peut avoir de mauvaises conséquences, en fait, sur ta pratique. Le job d'investisseur, à l'inverse, c'est un job, qui est un job, si tu le dis comme ça, qui est un job financier, quoi. Ton job, c'est de mettre de l'argent dans des boîtes qui vont faire du retour à la fin. Moi, mon job, et en fait, tu sais quoi, c'est marrant parce que ça me fait penser à quand j'étais jeune et je disais que je voulais être optimisateur. Moi, mon job aujourd'hui, c'est d'être un believer, tu vois. C'est de croire dans les entrepreneurs, de les financer avec les moyens qu'on a, et de temps en temps de prendre des paris un peu plus osés, de les financer un peu plus, ou de leur sauver la mise à un moment donné où t'as l'impression que tout va s'écrouler, et une fois ça va passer, une fois ça passera pas. Et ça nous est arrivé plusieurs fois, ça d'ailleurs. Et donc, ouais, moi, mon job, c'est d'y croire. Je crois dans les gens qui ont du courage, qui s'arrachent, qui s'accrochent, qui veulent faire des boîtes. Voilà, mon quotidien, c'est d'y croire.
En fait, pour refaire un lien avec la nature et le biomimétisme, t'es une sorte d'enzyme. Ton boulot, c'est de catalyser l'espèce d'énergie de feu intérieur des entrepreneurs pour leur permettre de réaliser de grandes choses. C'est marrant quand tu parles de ces boîtes, de ces startups qui sont passées au bord du gouffre et finalement qui ont super bien réussi. Il y en a plein des histoires comme ça. Avec ton expérience, comment est-ce que tu différencierais la persévérance de l'obstination?
Attends, tu peux me répéter ça?
Comment est-ce que tu différencierais la persévérance, c'est-à-dire le fait d'être suffisamment résilient et motivé et antifragile pour passer par-dessus les embûches, de l'obstination, c'est-à-dire continuer alors que d'un point de vue pragmatique, tout te montre que tu devrais arrêter. Et en fait, attends, excuse-moi, je rajoute encore un petit élément pour complexifier la question. Souvent, j'ai l'impression qu'on qualifie la qualité de nos décisions par rapport aux résultats. C'est un biais de résultats. Alors qu'on devrait les juger par rapport aux informations qu'on avait à disposition à ce moment-là. Et donc, peut-être que, il serait facile de se dire que dans les cas des startups qui ont réussi, eh ben, c'était de la persévérance. Et dans celles qui ont échoué, c'était de l'obstination. Alors qu'en réalité, ça nous renseigne simplement sur le fait que la décision a rencontré un environnement favorable. Alors que dans l'autre cas, peut-être pas, mais pas forcément sur la qualité de la décision au moment où elle a été prise. C'est un peu complexe, ce que je dis.
Non, mais complètement. Moi, je dis souvent que la différence entre la folie et la stupidité, c'est que les gens stupides ne se sont pas posé la question de pourquoi ils continuent. En fait, dans la persévérance ou l'obstination, il y a un peu de ça, quoi. L'obstination, c'est mettre un espèce de rempart aux informations que tu reçois qui te permettent de savoir s'il faut que tu continues ou pas, quoi. Alors que la persévérance, je pense que c'est, tu sais qu'il y a un chemin où putain on peut y arriver, quoi. Et donc la persévérance, c'est de se dire, encore ce dernier effort ou cet avant-dernier effort ou cet avant-avant-dernier effort pour arriver vers la fin, quoi. Mais la persévérance, c'est quelque chose où tu vois le bout du tunnel. Dans l'obstination, j'ai l'impression que tu vois pas le bout du tunnel. Tu vois juste un mur et tu continues de taper comme un connard sur le mur, quoi.
Ouais, bah après, j'ai envie de te dire que par définition, un entrepreneur, en tout cas à mon avis, est optimiste et qu'en étant optimiste, il verra toujours un moyen et une solution pour passer par-dessus le mur. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y arrivera ou qu'après ce mur-là, il n'y en aura pas encore
d'autres. Il persévère, il monte le mur. Il n'est pas en train d'essayer de casser le mur, il monte le mur.
et d'ailleurs, tu vois, j'ai le sentiment que lorsque tu te lances dans un projet, t'as cette espèce de feu intérieur, cette folie, cette énergie vraiment extrêmement puissante qui te permet de te transcender et de déplacer des montagnes. Et qu'elle est extrêmement utile au début parce que c'est grâce à ça que tu peux faire 10 métiers en un, travailler 80 heures par semaine et puis être toujours suffisamment motivé pour continuer. Et pour autant, après 2 ans ou 3 ans, quand ta boîte elle commence à marcher, à avoir de l'attraction, cette énergie elle peut te brûler. Et c'est pour ça que 70-75% des entrepreneurs souffrent de fatigue chronique, qu'il y a autant de burn-out, etc. Et j'ai l'impression que à ce moment-là, il y a un switch qui doit s'opérer entre ce qui t'a permis de démarrer et puis la posture maintenant que tu dois avoir, qui doit être une posture beaucoup plus équilibrée. Tu dois devenir un capitaine fort dans la tempête, et pour être un capitaine fort dans la tempête, rééquilibrer ta vie pour suffisamment bien dormir, gérer tes émotions, peut-être méditer comme tu en as parlé dans Human Machine, voilà, avoir un tas de petites choses, de petits garde-fous qui te permettent le moment donné de prendre la bonne décision, et si tu dois traverser une tempête, de rester fort malgré tout. T'es assez d'accord avec ça?
Complètement, et je pense qu'avec le temps, en fait, on apprend à mieux se connaître, on apprend aussi à être moins tête brûlée. Tu m'aurais parlé de sommeil il y a 20 ans, j'aurais une question à la foutre du sommeil. Si je dors 4 ou 5 heures par nuit, je vais arriver à tanquiller la journée suivante. Tu sais, moi j'ai 40 ans, là, à 40 ans, j'ai besoin de mes 7 heures par nuit. Je n'ai pas mes 7 heures, je suis un peu cramé, quoi. Si j'ai 8 heures, je suis refait. Donc, et ça, tu l'apprends en fait à mesure que tu apprends à vivre avec toi et tu vois et comment t'évolues. Et c'est la même chose que dans l'univers pro, où plus t'avances dans ton univers pro et plus tu développes certaines compétences automatiques. Et en fait, dans ta vie perso et dans l'énergie, la manière dont tu la déploies, plus t'apprends sur toi à mesure que t'avances dans ta vie, plus t'apprends aussi à la manière dont ton énergie fonctionne. Par exemple, moi, je chantais beaucoup en soirée, tu vois, quand j'étais jeune et tout. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'en suis incapable, en fait. Le monde physiquement me fatigue. Ça me met par terre pendant 2 jours. J'avais pas de migraine quand j'étais jeune. J'ai eu beaucoup de migraines chroniques ces dernières années. Alors, plus depuis que je me suis remis au sport, mais j'en avais énormément. Et t'apprends ce que tu tolères en termes de nourriture, ce que tu tolères moins, ce que tu aimes moins, etc. En fait, tu t'apprends sur toi, quoi. Et puis, à mesure que t'apprends sur toi, tu déploies ton énergie différemment. Je trouve ça hyper intéressant, d'ailleurs. Et je pense qu'on ne s'en rend pas compte. C'est comme les enfants. Les gens te parlent d'enfants, ils te parlent d'enfants, mais en fait, tu ne sais vraiment ce que c'est que quand tu en as. Et sur l'énergie, quand t'as 40 versus 30 versus 20 ans, c'est exactement la même chose. Tu n'en as aucune idée tant qu'il peut passer par là.
C'est marrant parce que tu parles des enfants, et justement je pense qu'ils sont un excellent révélateur de l'impact de la gestion de son énergie sur la personne que tu as décidé d'être. Moi j'ai envie d'être un père bienveillant, d'avoir de poser un cadre, mais que ce soit un cadre qui soit compris et sur lequel mes enfants adhèrent, et pas une relation hyper descendante basée sur la peur. Et ben ça nécessite de la maîtrise de moi, et cette maîtrise de moi j'arrive à l'obtenir seulement si je dors suffisamment, si j'arrive à préserver et à équilibrer ma journée de telle sorte à être en maîtrise de moi, justement. Et sinon, ça coupe ma cognition, et puis je tombe tout de suite sur le système 1, t'en parlais tout à l'heure, sur mon côté reptilien et sur ma réaction automatique. Et c'est représentatif de la façon dont fonctionne mon cerveau. Donc là, l'enfant, ma fille en l'occurrence, c'est juste une façon de m'en apercevoir. Mais si je fonctionne comme ça avec elle, en tant que chef d'entreprise, je vais fonctionner de la même façon. Donc c'est intéressant de voir aussi, tu vois, souvent, peut-être que moi, je me suis construit, tu vois, avec l'idée qu'un entrepreneur, ça devait travailler 80 ou 100 heures par semaine. Je culpabilisais dès que je travaillais moins. Et je m'aperçois aujourd'hui que le fait de moins travailler, mais mieux, justement, en préservant les différentes énergies qui me permettent de donner le meilleur de moi, est beaucoup plus important et au final rentable en termes d'impact pour ma boîte, pour ce que je crée, etc. Et toi, tu voyais l'évolution de cette connaissance sous le prisme de l'âge comme une compensation au fait de vieillir et à cette énergie qui décroît. Moi, j'ai une expérience différente où j'avais l'impression d'exprimer mon plein potentiel à 25 ans. Et en réalité, maintenant, j'en ai 32 et j'ai l'impression d'avoir accédé à une beaucoup plus grosse partie de mon potentiel, justement par le fait de mieux maîtriser mon environnement de vie et mon équilibre de vie.
Ouais, mais les gens, ils font le raccourci quand tu dis ça, il y a beaucoup de gens qui font ce raccourci en se disant « Ah, j'ai bossé, je me suis buté à bosser, en fait, j'avais pas besoin de bosser tant pour pouvoir exécuter et faire autant de choses. » Mais ils passent souvent d'un extrême à un autre, de l'extrême où en fait je me butais à la tâche, à l'extrême où en fait j'arrête de me buter. La vérité, c'est que pour réussir, il faut travailler dur, quoi. Et travailler dur, ça veut dire que si tu arrives à mixer une certaine excellence opérationnelle de l'efficacité avec les heures, sans en faire des montagnes, parce qu'effectivement, il y a un nombre d'heures au-delà de ça marche plus, quoi. Ben, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais la personne qui te dit, je passe de 70 à 35 heures, non, non. Passe de 70 à 50, 55. Tu vois. Avant de passer à 35, va falloir faire des choses, quoi. Donc, faut faire attention à ce prisme-là, qui sont que les gens passent d'un extrême à un autre, où j'avais pas de vie à, je suis obsédé par cette histoire de work-life balance, qui est qui est un fantasme. Parce qu'en fait, quand t'aimes ton job, t'es quand même toujours un peu dedans, quoi.
Bah, c'est ce que j'allais dire. Comment est-ce que tu quantifies le temps où tu travailles et le temps où tu travailles pas? Par exemple, moi, si je vais marcher en nature, eh ben, c'est un temps dans lequel je travaille pas, mais souvent, c'est là où je résous mes meilleurs problèmes et où j'ai les meilleures idées. Donc, est-ce que tu considères ça comme du temps de travail ou comme du temps de repos?
Je sais pas, tu vois, enfin, j'en ai aucune idée. Mais ce
Et.
qui est sûr, c'est que tu sais à la fin de la semaine si t'as mis les heures.
Ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, ça me pose la question de justement, comment est-ce que tu vois l'équilibre, toi, dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose de cyclique? C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est complètement déséquilibré, sur le business,
Non,
par
c'est fini
exemple, et puis
ça.
après que sur la famille, puis après que sur le sport, où tu as réussi à trouver un vrai équilibre, au quotidien?
C'était le cas, ça pouvait être cyclique, mais c'est fini, ça. Je suis quand même beaucoup plus organisé. Il y a juste un sujet, c'est qu'en fait, j'ai quand même fait un peu de sacrifice sur ma vie sociale amicale. C'est-à-dire que j'ai quelques amis proches à Aix et d'autres à Paris que je vois de temps en temps, mais souvent, en fait, vu que mes déjeuners vont être rythmés par un peu plus l'entraînement que des déjeuners extérieurs, ou que quand je vais aller à Paris le soir, en fait. J'ai envie de bien dormir parce que le matin à 7 h, j'ai envie d'aller à la piscine. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Bon, bah, du coup, tu shrinks un peu cette partie-là. Et fallait savoir, tu vois, tu shrinkais soit le boulot, soit l'entraînement, soit la famille, soit les amis. Bon, bah, ça s'est plutôt fait dans ce coin-là, du côté des amis. Et j'assume, hein. Et après, j'essaye d'avoir toujours ce temps défini pour la famille en semaine et le week-end. Pareil pour le sport, à des horaires qui font que ça fonctionne avec mon activité professionnelle. Et à la fin de ça, chaque semaine, oui, tu peux avoir une ou deux tâches sur lesquelles tu es un peu à la bourre. Mais globalement, j'aime terminer mon dimanche en me disant, putain, cette semaine, j'ai fait ce que j'avais à faire, quoi.
C'est marrant parce qu'on me demande souvent comment j'arrive à faire autant de choses dans mes journées ou dans mes semaines. Et en fait, comme toi, on pense pas à ces sacrifices qu'on fait, mais parce que moi, je les vis pas non plus spécialement comme des sacrifices parce que je suis passionné par ce que je fais. Mais c'est vrai que j'ai peu d'interactions sociales à part à certains moments définis. Je regarde pas Netflix ou très peu la télé. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Et en fait, c'est devenu tellement des habitudes que j'en ai même plus conscience. Et d'ailleurs, récemment, je me suis quand même aperçu que je considérais peut-être l'investissement dans les relations amicales comme un investissement nul, non pas dans le sens où il m'apporte rien, mais dans le sens où au regard de ouais, si je l'apprécie seulement d'un point de vue pragmatique, il arrivait au dernier rang de mes priorités. Et je m'aperçois quand même aujourd'hui, et j'en reviens un petit peu, que c'est quelque chose qui me nourrit, qui m'élève, surtout si c'est avec des gens qui partagent tes valeurs, qui challengent ta façon de voir le monde, et que en réalité, même si je peux pas mesurer l'impact que ça a sur ma vie ou ma croissance personnelle, eh bien, il est clairement non nul et donc je le repriorise de plus en plus quand même.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et après, il y a des objectifs, tu vois. Moi, je me suis fixé un objectif pour juin de cette année et octobre de cette année. Et je sais que je sais pourquoi je fais ça. Il faut mettre une limite à ce type de choses. Et régulièrement, je me dis, attends, là, je me calme, je vais appeler un tel, on va aller se faire un déj, on va aller se faire une bouffe, on va se voir et tout. J'essaie de remettre un petit peu d'ordre. Mais c'est aussi l'aveu du fait que on est tous relativement assez imparfaits, quoi, dans nos organisations et dans qui on est. On a beau dire qu'on est extrêmement organisé, etc. La réalité, c'est qu'on fait des sacrifices et qu'il y a des trucs sur lesquels on aimerait pouvoir délivrer et sur lesquels on ne délivre pas, quoi. Et that's life, hein. Mais il faut pas se flageller pour autant.
Et j'ai bien aimé aussi le fait que tu dises que t'aimais bien avoir fini ta semaine le dimanche, parce qu'on a souvent cette vision de la semaine du lundi au vendredi, etc. Et puis surtout de plus en plus là avec cette histoire des semaines de 4 jours où tu essaies de remplir un maximum du lundi au jeudi et puis après ça te fait 3 jours de week-end. Et moi j'ai un fonctionnement complètement inverse où j'aime bien travailler tous les jours, même en vacances. Et par contre à chercher l'équilibre plutôt dans ma journée et dans mon quotidien que bosser comme un taré pendant 4 jours et puis après être tout concentré et puis après avoir 3 jours pour souffler quoi. J'ai l'impression que tu partages un petit peu cette vision aussi.
Ouais, mais moi je regarde ma, enfin je commencerai jamais un lundi matin avec une inbox full. C'est interdit chez moi. Ce serait un stress, ce serait beaucoup trop de stress. J'aime commencer le lundi avec un inbox clean et avec juste quelques to-do à faire. Ça permet de commencer sur les, voilà, sur de bonnes bases. Et puis il y a quelque chose de, je sais pas, moi je m'endors bien le dimanche, tu vois, quand j'ai fini mes emails, que j'ai écrit mon petit post du dimanche soir. Maintenant, j'arrive à m'organiser de façon à avoir fini à peu près après le dîner, quoi. Tu vois, donc je m'arrête pendant le dîner, on dîne avec les enfants et puis ensuite je termine. Généralement, j'arrive à avoir terminé vers 21h30. Avant, je terminais vers 22h30, 23h. Mais maintenant, comme j'ai souvent, je rentre de Paris le vendredi soir à Aix. En fait, j'ai 3 heures de train du vendredi qui me permettent de nettoyer un peu mon inbox. Donc c'est pas mal. Puis samedi, de temps en temps, je prends mon téléphone un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, puis je fais un peu de cleaning.
Et comment est-ce que tu places, parce qu'on l'a évoqué sur la partie sociale, mais comment est-ce que tu places tes enfants et le père que tu as envie d'être, la présence que tu as envie de leur apporter dans l'organisation de tes objectifs, que ce soit pro ou sport?
Moi, je suis assez. Enfin, je pense qu'on lead par l'exemple. Ils ont la chance, quand ils rentrent de l'école, que je sois à la maison 2 à 3 jours par semaine et qu'ils me voient bosser de la maison. Et ils voient les deals sur lesquels je bosse. Et puis, j'en parle avec ma femme. Et donc, en fait, du coup, ils entendent parler de ça. Et donc, ils sont assez au courant de ce qui se passe. Donc, j'espère que ça leur donne quelques. Enfin, tu vois, quelques. Début de sentiment de ce qu'il faut faire. Ensuite, toujours là pour les dîners, toujours là pour les couchers, toujours là pour l'histoire. C'est ce truc sur lequel tu déroges pas. Qui, pareil, en fait, c'est un exemple que tu veux leur donner pour le futur. Et ensuite, moi, mon aveu d'échec, c'est que les enfants, quand ils ont 3, 4, 5, 6 ans, c'est pas. Tu vois, moi, je suis assez speed. Je suis pas très patient. En fait, c'est pas là que j'étais un bon père, tu vois. C'est pas là que je suis mieux. Alors, là où je m'éclatais, c'est, tu me dis, on fait un igloo. Ah ouais, je peux te passer la journée à te faire un putain d'igloo. Ça, j'adore. Tu veux faire un château de sable pendant des heures qui fait 3 mètres de haut? Ouais, vas-y, viens, on fait un château de sable, tu vois, genre des choses comme ça. Mais le quotidien du, tu veux jouer à Mimi Cracra pendant un quart d'heure avec ton fils, j'avais concrètement, j'avais du mal, quoi. Alors que là, maintenant qu'ils ont 13, 11, 10 ans, bah, ils veulent, je sais pas, aller faire un peu de sport, aller regarder tel truc, je sais pas, il y a plein de trucs. Là, on échange beaucoup et c'est beaucoup plus sympa. Mais j'ai pas démontré une grande capacité à faire abstraction de, tu vois, de l'ennui que me procuraient certaines activités en me disant non, je vais me forcer parce que je vais être un bon père, tu vois. C'est pas comme ça que ça a fonctionné.
Ouais, après moi je les ai simplement switchés par des activités qui me plaisaient, dans le sens où c'est pareil, tu vois, jouer à la dinette dans sa chambre, c'est pas un truc qui me plaît. Par contre, aller marcher dans la forêt ou l'emmener boire un chocolat chaud et puis lui lire une histoire, ça c'est des trucs qui m'amusent plus. Mais après, ceci étant, tu vois, l'amener promener dans la forêt, c'est clair que dans la tête d'un enfant, le chemin et la destination, tandis que dans la tête d'un adulte, la destination est la destination. Ce qui veut dire que lui ou elle peut prendre 1 heure pour faire 100 mètres, alors que toi, tu auras envie d'arriver plus rapidement possible d'un point A à un point B. Et d'ailleurs, ça fait un parallèle avec la méditation. T'en parlais dans Human Machine. C'est un truc qui t'a aidé à discipliner justement cette hyperactivité.
Pendant un temps, mais pas longtemps en fait. J'ai vite switch off sur la méditation et je saurais pas te dire à quel moment et pourquoi. Je pense parce que j'avais l'impression de chercher à me dompter alors qu'en fait j'avais pas envie. Tu vois. J'étais en train d'essayer de me créer un système qui est un système qui me ressemblait pas. Et d'ailleurs, pour revenir rapidement sur l'histoire avec les enfants, tu vois, là, je les ai emmenés balader en dehors de la maison quelque part ce week-end, c'était super sympa, mais le deuxième, il voulait pas venir. Tu vois, le deuxième, il me dit non, mais j'ai des devoirs, ça stresse, tout machin. En fait, je vais rester à la maison, faire mes devoirs et on se retrouvera dans 3 heures quand vous reviendrez, quoi. Il a fait ses devoirs à la maison pendant que nous, on était en train de marcher, grimper la Sainte-Victoire. Donc c'est. On va dire aussi, de temps en temps, tu veux les emmener quelque part et eux, ils veulent pas, quoi.
Ouais. Sur la méditation, c'est marrant parce que moi, c'est pareil. Tu vois, j'ai essayé. Je suis quelqu'un de très discipliné, donc j'ai facile à me mettre en place de nouvelles routines et de m'y tenir. Donc la méditation, je me suis dit à un moment que ça serait bien pour moi parce que j'ai bien conscience d'avoir une forme peut-être angoisse, peut-être pas le mot, mais en tout cas une obsession de vouloir gérer mon temps et en profiter. Un maximum et puis surtout avoir une tendance très hyperactive et donc je m'étais dit que c'était pas mal pour me canaliser et dans les faits je l'ai fait je crois pendant tous les jours pendant 6 mois ou 9 mois et puis j'en suis arrivé à la conclusion que je suis sûr que c'est un outil génial mais ça dépend peut-être aussi des moments de la vie tu vois je te parlais de tout à l'heure des enfants de 20 ans de 30 ans bah, peut-être qu'en réalité la méditation c'est un truc super quand j'aurai 60 ans mais pour l'instant eh ben je suis rempli de cette énergie et j'ai plutôt envie d'en profiter. Alors, ceci étant, j'ai quand même trouvé là récemment un truc pas mal pour m'offrir un petit quart d'heure de détente salvateur. C'est que j'ai pas de télé dans mon salon, mais j'ai mis un sauna. Et donc 4 fois
Ah
par
ouais.
semaine, je me fais un petit sauna d'un
OK.
quart d'heure. Et ça, tu vois, ça me donne une détente physique et cognitive intense.
Ah,
C'est un
j'adore.
truc où je fais rien. Donc techniquement, je suis en train de rien faire, mais j'ai quand même l'impression de faire quelque chose. Et donc j'ai ce petit moment un peu méditatif comme ça à cet endroit-là. Et ça, c'est vraiment un game changer, je trouve.
OK, hyper intéressant.
Chérie.
C'est marrant parce que je me suis dit, putain, le sauna, ça m'a transporté, tu vois. Je me suis dit, tiens, je me ferais bien un bon sauna.
Ouais, parce que j'avais déjà remarqué que ça me faisait du bien, mais en même temps, j'avais jamais le temps d'aller dans un endroit où il y en avait un. Donc, bah d'ailleurs, ça nous fait un parallèle direct avec le sport. Tu parlais d'objectifs que tu avais cette année, c'est des objectifs pro ou sport?
Non, mais enfin, j'ai un objectif, j'ai des objectifs pro, j'en ai tous les jours, parce que tu sais, c'est une espèce de rolling. Maintenant que ça fait depuis 2015, du coup, il y en a tous les jours toutes les semaines, elle apporte son lot de nouveautés et de boîtes qui vont bien ou qui vont pas bien et tout. Donc ça, il n'y a pas de date fixe, tu vois, tout le temps à son lot de surprises. Mais sportivement, en fait, j'avais fait mon premier Ironman en septembre dernier, 2023. Et j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit que cette année, j'allais faire Nice avec un objectif très ambitieux et probablement pas très atteignable, mais au moins il faut se prendre à rêver de me qualifier pour Kona
Ah yes.
pour les championnats du monde, tu vois, en octobre à Hawaï. Donc, écoute, c'est un objectif. On va voir comment ça se passe. Mais j'aime bien, c'est une discipline qui me plaît beaucoup, que je trouve. Et tu sais quoi, comme l'entraînement, c'est quelque chose d'extrêmement rigoureux, en fait, ça m'aide beaucoup dans mes semaines. Parce que ça me pousse à la rigueur de manière générale, en fait, au sens large. Pour moi, c'est un outil de rigueur formidable, quoi.
Et puis je trouve aussi qu'il y a un truc qui est génial avec le sport, c'est que tu as une progression qui est quand même relativement linéaire et quantifiable, là où nos environnements d'entrepreneurs ou liés à l'entrepreneuriat sont par définition variables et chaotiques.
Attends, répète-moi ça.
Eh ben, ton métier, il est chaotique. Tu vas investir dans
Oui.
des boîtes, etc. Tu penses qu'elles sont géniales, et puis peut-être qu'il y en a qui vont pas marcher, et puis tu peux jamais vraiment prédire l'avenir. Tandis que dans le sport, eh ben, si tu t'entraînes de façon régulière et disciplinée, eh ben, tu fais que progresser. Il y a un côté hyper linéaire qui t'apporte une forme de victoire constante et qui, je trouve, équilibre la partie chaotique du travail.
Je suis d'accord. Et c'est probablement un bon équilibre à aller chercher au quotidien, enfin, tu vois, pour qui que ce soit. C'est trouver cette balance entre les choses qui nous structurent et les choses qu'on subit de la vie et qui sont assez déstructurées, quoi.
T'as toujours été très sportif?
Jamais. J'étais nul, moi. Je faisais pas de. À l'école, j'étais nul dans tout. Et après, enfin, en sport, j'avais comme tout le monde, j'avais 15 de moyenne. Et après, plus tard, moi j'ai eu les enfants jeunes, tu vois, j'ai eu le premier, j'avais 27 ans, et après on en a eu 3 en 3 ans et demi, donc faire du sport, c'était pas, tu vois, j'avais du mal à mettre ça dans la tête, quoi. Juste, j'ai arrêté le scooter quand j'avais 30, 30, 32, 31, 32, un truc comme ça. Et là, je me suis mis au vélo. Donc, j'avais un vélo à Paris pour me déplacer, un petit Brompton. J'ai essayé le squash 3 mois et je me suis pété le pied. Donc, j'ai eu 3 mois d'arrêt. Après, j'ai arrêté le squash. Ensuite, j'ai fait un peu d'escalade 6 mois. Mais c'était assez, j'ai trouvé que c'était assez chronophage. Enfin, le fait que j'aimais bien ça. Et puis, c'est tout, quoi. Et il y a 2 ans, je me suis mis au vélo. J'ai bien aimé. Il y a 9 mois, j'ai fait mon premier demi Ironman.
Attends. Comment il y a 2 ans, tu te mets au vélo et j'ai bien aimé à je me mets dans la tête de courir un Ironman ou un demi Ironman.
Non, en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que j'ai un copain qui me dit un jour, c'est quoi, c'était en mars 2023, il y a moins d'un an. Il me dit, ouais, Jean, je viens à Aix pour faire le demi Ironman. Donc, le demi Ironman, c'est 1,9 km de nage, 90 km de vélo et un demi-marathon, donc 21 km, les uns à la suite des autres. Et il me dit, j'ai vu que tu faisais un peu de vélo. Enfin, non, est-ce que tu peux m'héberger? Il commence comme ça. Moi, je lui dis, écoute, oui, je peux t'héberger, viens, ça va être sympa. Il me dit, mais vu que tu m'héberges, est-ce que tu veux pas le faire? Tu vois, j'ai vu que tu faisais du vélo, tu peux bien nager 2 bornes et courir 21 bornes. Et je me suis dit, ah ok, ouais, c'est un bon challenge, écoute, je vais faire ça. Donc, je me suis inscrit. Et bon, bah la brasse, j'en ai chié. En fait, enfin, de la nage, j'en ai chié parce que comme je ne savais pas crawler, j'ai fait la brasse. Quoi. Le vélo, ça allait à peu près comme je m'étais mis au vélo un peu plus d'un an avant. Et la course à pied, j'en ai chié parce qu'en fait, j'avais à peine couru depuis 10 ans. Il y a 10 ans, quand j'avais couru, j'avais couru 10 fois. Quoi, donc, ça compte pas. Et ça m'a piqué en fait, et du coup le lendemain j'ai décidé de booker un coach, et un coach qui m'a dit, bah si tu veux préparer un full Ironman en 2024, on va t'aider à préparer d'abord un demi Ironman en septembre. Et je me suis rendu compte pendant mes entraînements au mois d'août que le demi Ironman de septembre en fait tombait un dimanche, et moi ça m'arrangeait pas parce que j'avais des rendez-vous le lundi et tout, c'était galère de revenir d'Italie le dimanche soir. Donc je me suis finalement inscrit pour la course de la veille, le samedi, qui était un full Ironman. Et donc là, ce jour-là, j'ai fait mon premier full Ironman. Et qui s'est plutôt bien passé, parce que j'ai terminé en 10h30, en étant bien en forme et tout. Et donc, je me suis dit, bah tiens, puisque ça s'est bien passé, il faut que je continue, quoi. Et voilà. Et en fait, j'adore.
Qu'est-ce que tu as ressenti, du coup, en 10h30 de course? T'as fait un petit voyage intérieur, t'es arrivé, t'as pleuré. Qu'est-ce que t'as ressenti?
Écoute, j'ai versé quelques larmes en arrivant au demi de Aix, et j'ai versé quelques larmes en arrivant en Italie, à Cervia. Mais ce que j'ai ressenti, en fait, surtout, c'est... Si on en est revenu à ce qu'on se disait avant, j'ai ressenti vachement de sérénité. Tu vois? À la fois quand j'avais mal pendant le run, quand c'était long pendant le vélo, ou quand tu te tapais les méduses pendant la natation, en fait, j'étais là où je devais être, tu vois? C'est comme quand je suis avec un entrepreneur en rendez-vous, je suis là où je devrais être. Et je devrais pas être ailleurs. Et c'est pour ça que parfois il y a des moments qui sont un peu douloureux, tu vois, là. Je fais des refinancements sur des boîtes et tout. Ça me fait chier parce qu'on parle de refinancement. Mais moi, refinancement, en fait, c'est pas ce qui me fait vibrer, quoi. Ce qui me fait vibrer, c'est les histoires des boîtes, c'est ce qu'elles ont à faire, c'est l'histoire de l'entrepreneur, quoi, tu vois. Mais vraiment, c'est... Donc, je me suis dit, ouais, je suis à ma place. Et c'est vrai que quand tu te retrouves dans des endroits comme ça et tu te dis, putain, je suis à ma place, ça fait... Bah, rien, t'es bien, quoi, t'es en paix.
J'ai l'impression quand même dans ta vie, que ce soit quand t'as quitté The Family pour ou non quand t'as rejoint The Family alors qu'ils pouvaient pas te payer, ou là avec les Ironman et puis dans quelques autres exemples que t'as cités, que t'aimes bien quand même te confronter à la difficulté, à la variabilité, au chaos, aux choses qui te donnent le sentiment peut-être d'être vivant, dont tu peux être fier. Je pense qu'il y a un petit côté égotique derrière aussi, mais qui derrière te donne aussi des référentiels de victoire, tu vois, qui derrière fondent, je trouve, une forme de tu vois ce que tu disais tout à l'heure en mode rien n'est grave. On peut l'entendre de deux façons. Rien n'est grave parce que je sais qu'il y a des choses beaucoup plus graves, il y a des gens qui sont malades, qui meurent, etc., et ça c'est vraiment grave, donc tu l'as par biais de contraste. Mais tu peux aussi le voir sous le prisme de je sais que j'ai en moi des ressources qui me permettront dans tous les cas de rebondir. J'ai confiance en ma force intérieure.
Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai, et je pense que c'est la confiance que m'ont donné mes parents quand j'étais jeune qui a fait ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'adore le chaos. Je trouve que c'est, et j'adore le chaos aussi probablement parce que c'est des, parce qu'en fait, je navigue bien dans le chaos. J'aime bien ça. tu vois, quand il y a un fight, quand il y a une merde et tout, comme je suis assez, comme je relativise vachement les choses, en fait, ça me fait ni chaud ni froid. Et pendant que les gens, en fait, sont en zone de stress, ont les hormones qui partent en couille, tu vois, avec leur cerveau vrille à droite, à gauche et tout, généralement, c'est ce moment-là où j'arrive à strike. Et dans une course, c'est un peu la même chose, tu vois. Le mental me fait pas défaut. J'ai un super mental donc, quand c'est la merde. Mais vraiment, quand c'est la grosse merde. Quand c'est une petite merde, bof. Mais les grosses merdes, je dis pas que j'aime ça, mais putain, c'est là que j'ai, c'est un peu là que je prends du plaisir quand même, quoi.
ça me parle pas mal aussi. À la base, j'ai pas un gros passé sportif et puis je m'amuse à réaliser des petits exploits à mon niveau maintenant. Et s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que jamais j'abandonnerai. Tu vois, je suis pas très bon, j'ai pas de grande capacité d'endurance musculaire ou quoi que ce soit, ni un gros passé sportif. Mais je sais que j'ai ça avec moi et que l'échec, en tout cas, sauf forcé, n'est pas une option. Et c'est quand même assez appréciable. Et j'aime bien cette citation qui dit que, en gros, choix difficile, vie facile, ou alors je sais pas si en Ironman dans tes entraînements tu utilises la notion de RPE pour noter l'intensité et la difficulté d'une séance. Donc tu vois par exemple un RPE 2 ben c'est facile, un RPE 8 c'est une séance plutôt intense type par exemple fractionné. Mais j'aime bien cette idée de dire que justement le fait de travailler dans des séances à RPE élevé rend le RPE de la vie beaucoup plus faible.
Ah, c'est marrant ça. Ouais, alors moi je fonctionne plutôt avec trois intensités, quoi. Tu vois, faible, modérée, forte.
Ouais.
Avec, je pense, 70%,
70%
zone 2, peut-être un petit 20%, un petit 20% en zone modérée, un 10%, je sais pas ce que représentent les en minutes et tout, mais. En fait, les trois me procurent beaucoup de plaisir. Parce que le premier, l'endurance fondamentale, c'est vraiment un travail de mental, quoi. Parce que c'est là pour la durée. Le deuxième, modéré, je l'aime bien parce que c'est un travail, c'est un effort soutenu pendant une durée qui est pas négligeable.
Mmh.
Et donc, là, tu rentres dans les retranchements, quoi.
La ténacité.
Ça, c'est... Ah, putain, la ténacité. Là, tu te butes, là, quand.
Quand c'est
coach
les pires.
Me dit, ah, tu vas faire 60 minutes à 250 watts sur ton vélo.
C'est les pires.
Mais sauf qu'avant ça, faut que tu fasses une demi-heure avant zone 2, une demi-heure après. Et c'est 60 minutes quand elle commence, tu fais là. Allez, tu pédales, puis tu regardes le timer. Et quand le timer est à 35, tu dis, ah, je suis presque à la moitié. Puis très rapidement, tu arrives à 25. À 25, tu dis, ah, c'est pas loin de la fin, dis donc. Donc tu vois, il faut s'accrocher à des trucs. Et l'intensité, parce que c'est la fierté du dépassement, tu vois, de soi, d'être allé au-delà de ce qu'on pensait être possible. Et ça, c'est con, mais sur le moment, t'en chies grave, et après, t'es hyper fier de toi.
Moi, celle du milieu, là, les séances tempo, c'est celle que c'est les pires. Limite, elles me font peur avant de devoir les passer. Et puis quand je reviens, je me dis, je suis quand même fier d'être arrivé au bout, quoi. Mais
ouais,
elles sont horribles. Et d'ailleurs, ça ressemble à quoi, à peu près, tes semaines d'entraînement?
Donc mes semaines d'entraînement, c'est une quinzaine d'heures par semaine à peu près. En gros, je vais avoir 3 séances de vélo, 3 séances de course, 2 séances de natation. Natation, il y a plusieurs options, mais généralement, j'essaie d'y aller le lundi matin tôt et ou le mardi matin tôt et une fois à Paris le vendredi tôt. Donc ça, c'est pour les séances de natation. Sur vélo, course à pied, je vais avoir généralement... 2 séances à l'heure du déjeuner à un moment donné, tu vois, une séance matinale tôt pendant la semaine et 2 séances le week-end et 2 séances le soir, quoi. Et donc rapidement, en fait, t'arrives à les caser. En fait, caser, au début, je pensais que c'était impossible, mais en fait, caser 15-16 heures par semaine, c'est... Bon, t'es tout le temps en jogging, bon, ça, malheureusement, ça peut... c'est un peu la contrainte. Mais en fait, ça se case assez facilement, c'est assez rapide. Et puis en plus, sur les runs et sur le vélo, tu vois, le vélo, j'en ai fait ce matin, je me pose sur mon vélo, je prends mon inbox, je te dis, je suis à 150 au départ et je suis à 15 à l'arrivée, quoi, à peu près. Donc, t'as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs pendant tes 2 heures de zone 2. Et quand je cours, il est très fréquent que j'ai quelques entrepreneurs qui m'ont demandé des conseils sur X, Y, Z sujet et je vais en prendre 2-3 au téléphone pendant mon run. Et 90% du temps, ils me disent, et là, tu fais quoi ou je sais pas quoi, et je leur dis, je suis en train de courir, et ils n'ont même pas remarqué que j'étais en train de courir, tu vois. Donc les AirPods font un travail formidable là-dessus.
Ouais, et puis en plus, ouais, non, mais ça, je trouve que, tu vois, je trouve qu'on a trop tendance à opposer le sport, le mouvement, etc., avec le travail, alors que les deux pourraient tout à fait être intriqués dans un quotidien, et c'est même mieux, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même le concept de sportif sédentaire, donc des gens qui se butent à la salle, mais qui derrière restent assis 8 heures par jour.
C'est les gens inefficaces qui disent ça.
Non, mais et en plus, en passant tes coups de fil pendant que t'es en train de courir, eh ben, ça t'oblige aussi à être dans la bonne zone, parce que si t'es un petit peu trop rapide, bah, tu vas perdre la maîtrise de toi, etc. Donc, ça a plein d'avantages et d'adaptations potentielles. Et sur le fait d'être en jogging toute la journée, ça favorise aussi ta propension à bouger, parce que je trouve que, enfin, tu vois, moi, pendant tout un temps, je m'habillais bien et tout, je mettais une jolie chemise, un jean, machin, et en fait, les vêtements, c'est un peu un sarcophage. Tu peux quasiment pas bouger dedans, t'as pas envie de les abîmer, donc tu vas t'empêcher de faire des trucs, etc. Tandis que, bah voilà, quand t'es en t-shirt avec un pantalon qui bouge un petit peu, ben naturellement, pendant ta journée, tu vas te mettre à faire des petits étirements, un peu de mobilité, parce que ça te fait du bien, et voilà, ça change un petit peu quand même. Le mouvement de ta journée, je trouve.
Complètement.
Et y a un truc qui m'a fait marrer dans ton bouquin, c'est que t'as parlé à un moment de karma. Tu crois au karma ?
Énormément. En fait, je crois pas au karma en tant que. Enfin, je crois au karma dans le sens où. En gros, t'as des. Attends, comment le dire ? Bon, déjà, je pense que tu es fondamentalement beaucoup plus heureux quand tu donnes et quand tu cherches l'output positif. C'est, tu vois, quel que soit le résultat à la fin, tu vois. Même si à la fin, le entre guillemets, le destin te le rend pas, tu seras quand même plus heureux. Parce que tu as appris à vivre avec ça, à faire abstraction du reste et à te dire, en fait, j'offre et en offrant, je vais recevoir ne serait-ce que la gratitude des gens et cette gratitude, elle n'a pas de prix, quoi. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, je pense que faire ça fait que tu t'ouvres à beaucoup plus d'opportunités. Et donc, en fait, le karma, c'est aussi le fait de, quand tu es en accord avec toi-même, ça te permet de te mettre en accord avec les autres. Se mettre en accord avec les autres, ça te permet de te mettre dans une zone harmonieuse. Et cette zone harmonieuse fait que ton karma, en fait, se développe bien, quoi. Et après, il y a des gens qui, eux, ont cette tendance à tirer la couverture, être irrespectueux, tu vois, mal en fait gérer les interactions avec les gens et ça leur retombe sur la gueule. Parce qu'en fait, malheureusement, ça manque d'harmonie, quoi. C'est assez bête et méchant pour ça. Hein.
Puis t'as peut-être pas envie de bosser avec eux. Tout simplement, déjà.
Oui. Oui, t'as pas envie de bosser avec eux, mais tu le vois. Mais oui, mais en même temps, enfin, t'as pas envie de bosser avec eux. Il y a quand même des gens qui ont cette capacité presque lunatique à être mielleux un jour, insupportable l'autre jour, etc. Et donc, pendant longtemps, à tirer les ficelles dans des organisations ou dans des gens en créant ce magnétisme de la peur et de l'attachement, quoi. Tu vois, il y a beaucoup de travers dans certains comportements déviants de gens qui tirent la couverture vers eux. Donc, oui, dans un monde idéal, tu te dis, bah, les cons, je m'en sépare. Et parfois, malheureusement, t'en as toujours un qui traîne et tu l'avais pas vu ou tu t'en es rendu compte trop tard, quoi.
Ouais, donc toi, t'évites de tomber dans la recherche du profit face à une situation donnée qui pourrait...
Jamais.
T'essaies autant que possible et toujours d'être authentique et de dire tout simplement ce que tu penses.
Chercher ton profit avant de chercher la justesse de la situation, c'est la pire chose à faire. C'est une énorme connerie. C'est très short-termiste. Pas très sympathique d'ailleurs. Ouais, je pense pas que ce soit la bonne manière de faire les choses. Moi, je regarde la situation pour la situation, quoi, telle qu'elle est, et tu vois, qui est à l'intérieur de cette situation, ça a un impact sur qui, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, je cherche à faire des choix qui soient justes.
Tu sais, c'est marrant parce que quand on t'écoute, ça paraît couler de source et être simplement du bon sens. Mais surtout dans des sphères un peu élevées, etc., c'est clairement pas le mode par défaut. La plupart des gens, ils vont essayer d'observer la situation et les différentes parties prenantes et de moduler leur discours de telle sorte à arrondir les angles et puis à faire en sorte que tout fonctionne plus ou moins, quitte à travestir leur morale.
Ouais, je sais pas quel objectif ils essaient d'atteindre avec ça. Franchement. Mais la difficulté que t'as, c'est quand t'es en groupe, et qu'en fait chacun joue sa partition de manière différente. Si toi tu joues une partition qui est honnête, qui est directe, et qui est tournée, tu vois, vers la résolution d'un problème, t'en as d'autres qui le feront pas. Et ça, faut composer avec, et c'est assez compliqué, je trouve.
Et du coup, ça inclut aussi la possibilité de se montrer vulnérable dans certaines situations, puisque si t'assumes et que t'affirmes ce que tu dis et que t'es pas en train d'essayer de changer ton discours pour correspondre aux attentes des autres, bah parfois tu dois dire que tu te sens désemparé, triste ou fatigué.
Attends, tu me l'as refait?
Et ben parfois tu peux ressentir dans certaines situations être vulnérable, dire que tu sais pas, etc. Ça t'arrive de justement de pas avoir cette posture de
tout le
mal
temps.
Dominant, de fort, etc. Ouais.
Ouais, tout le temps, c'est ma position par défaut d'ailleurs. C'est que quand je sais pas, je dis que je sais pas, et quand je suis pas à l'aise, je dis que je suis pas à l'aise, et quand il y a un truc sur lequel je suis pas compétent ou que je me sens pas, je le dis systématiquement. Et j'ai appris ça d'un de mes boss il y a quelques années qui m'avait dit, mais putain Jean, quand tu sais pas, dis-le, en fait les gens veulent pas te marcher dessus, ils veulent t'aider, tu vois. Ça m'a beaucoup aidé en fait. Et d'ailleurs, comme c'est quelque chose qui est assez rare, en fait les gens apprécient beaucoup la vulnérabilité et probablement la soignent beaucoup plus qu'on peut le penser, quoi. Quand tu t'autorises à être vulnérable vis-à-vis de quelqu'un, d'abord, un, ça permet à cette personne de montrer son vrai visage. Est-ce qu'elle va abuser de toi et de ta vulnérabilité, ou au contraire, est-ce qu'elle va l'utiliser pour que vous en bénéficiez ensemble, tu vois, en faisant preuve de vulnérabilité aussi. Donc, je pense que c'est un bon marqueur aussi du vrai caractère des gens. Et ensuite, moi j'ai remarqué en tout cas que ça me servait beaucoup plus que ça me desservait.
Ça t'arrive d'avoir des entrepreneurs qui viennent te voir, qui te pitchent et puis qui te disent on a fait tout ça, etc. Par contre, sur telle partie, on n'est pas tout à fait sûr de nous, et c'est aussi ce qu'on cherche avec toi.
Oui, mais alors moi, je suis malheureusement pas quelqu'un qui trouve des solutions aux entrepreneurs. Mon job, c'est de poser les bonnes questions pour les aider à trouver la solution. Mon job, c'est de les aider à prendre du recul. Mon job, c'est de les connecter aux bons investisseurs le jour J, de les aider sur leur levée de fonds, de regarder tous les patterns qu'on a dans d'autres boîtes pour leur distiller, etc. Et on va pas régler leurs problèmes. Et ça, c'est parfois un fantasme que les entrepreneurs ont, de se dire, ah ben, c'est super, je vais avoir des investisseurs qui vont m'aider. Tes investisseurs, ils vont t'aider, mais c'est pas une aide. La seule aide concrète qu'ils t'apportent, c'est une aide sur le réseau. Mais sinon, l'autre aide concrète qu'ils t'apportent, c'est une aide de prise de recul, c'est une aide de prise de décision, c'est une aide d'accompagnement, mais c'est pas une aide d'exécution, quoi. Et donc il faut pas mélanger les deux.
Ouais, c'est intéressant comme distinction. Et toi, à l'échelle personnelle, comment est-ce que tu progresses, comment est-ce que tu continues à apprendre et puis à être suffisamment sharp sur tous les sujets que tu as à traiter?
Faut jamais s'arrêter. C'est le point numéro un, c'est qu'il faut que tu mettes la même intensité le vendredi 3 décembre de telle année que le vendredi 5 décembre d'il y a 10 ans. T'as pas le choix. C'est un truc, si tu commences à baisser la garde, baisser l'intensité dans tes meetings, avoir un côté un peu laid back, je sais pas quoi, t'es mort. Il faut y mettre la même intensité tous les jours. Et moi, tous les meetings que je fais avec tous les entrepreneurs, en fait, évidemment, parfois j'ai des loupés, je suis pas en forme et tout, ça va pas, mais 95% des fois, j'ai la gouache, je suis dedans, quoi, j'ai envie. Et donc, moi, mon diapason, le truc qui me permet de savoir si je suis dans le coup ou pas, c'est est-ce que j'ai l'énergie.
Ouais, mettre vraiment de l'intensité dans chaque minute, dans chaque chose que tu fais, viser l'excellence à chaque fois. Et tu vois, encore une fois, j'aime bien, excuse-moi, hein, je garde cette espèce de filigrane de cette relation, de ce parallèle avec la mort. Tu vois, moi la semaine dernière, j'étais à Paris, je suis parti à 4h30 lundi matin, et puis à 8h, il y a ma femme qui m'appelle pour me dire que l'ouvrier qui était venu poser les Velux chez nous est tombé du toit et s'est tué. Et forcément, ça me touche parce que j'ai rencontré, parce qu'il était gentil, parce que quand la mort toque à ta porte, et ben ça fait toujours bizarre. Et puis je peux pas m'empêcher d'imaginer que pour lui c'était une journée comme une autre. Qu'il est parti peut-être le lundi matin après avoir pris un café distrait, qu'il a peut-être à peine pris le temps d'embrasser ses enfants ou sa femme. J'en sais rien, évidemment. C'est moi qui suppute et qui projette, mais et que bien évidemment, tu vois, personne pouvait s'attendre à ça. Et je trouve que c'est si facile de tomber dans cette espèce de facteur d'habituation à reproduire ce que tu fais jour après jour sans mettre de conscience justement dans chaque minute. Et je suis pas en train de dire que tout le monde doit forcément sur-remplir ses journées comme j'ai tendance à le faire, mais au moins choisir consciemment comment est-ce qu'on veut vivre chaque minute et puis avoir la responsabilité de ce qu'on en fait. Et je trouve que c'est ce qui transpire vraiment de ton discours, et j'en reviens avec cette idée de justesse, c'est d'être juste à ta place, d'essayer d'être authentique dans ce que tu fais, et puis de donner à chaque fois le meilleur de toi pour la minute qui suit, plutôt que de fantasmer sur ce que tu pourrais être dans 10 ans. Et c'est sûr que ça fait hyper développement personnel, et puis que c'est des belles phrases qu'on entend dans les livres, mais tu l'incarnes vachement, et je trouve que c'est sympa de le souligner, parce que probablement qu'en vivant comme ça, eh bien, d'une part, on participe à rendre la société et le monde meilleur, et puis en plus, je pense qu'en termes de satisfaction, de croissance personnelle et d'épanouissement, c'est probablement la meilleure voie vers le bonheur.
Ouais, il faut vivre sans regret. Et c'est pour ça qu'il faut savoir de temps en temps prendre des décisions courageuses qui vont avoir des impacts, tu vois, sur ta carrière, sur des aspects matériels qui peuvent paraître importants, mais qui en fait ne sont rien par rapport à tout le reste, quoi. Et c'est pas facile, hein, d'avoir toujours cette présence d'esprit, hein. Et ouais, c'est hyper important. Et 40... chaque jour peut être le dernier.
T'as 40 ans, t'as des rêves là qui te motivent, à part les championnats du monde d'Ironman?
Moi, mes rêves, c'est que on a financé pas mal d'entreprises depuis quelques années, donc évidemment j'ai rêve que certaines d'entre elles deviennent iconiques, tu vois, deviennent extraordinaires, et il y en a qui sont sur ce chemin-là, il y en a qui sont dans des phases un peu plus difficiles, et est-ce qu'elles vont arriver à se retourner, à y arriver, je ne sais pas. Donc ouais, il y a tout ça. Pour moi, aujourd'hui, mes rêves, c'est le succès de quelques entrepreneurs qui vont faire des trucs extraordinaires. Parce qu'on a plein de petits succès, mais en fait, tu cherches toujours ton gros succès, tu vois. Ton championnat du monde de l'investissement, c'est quoi? Ben, c'est une ou deux boîtes qui va valoir plusieurs milliards ou dizaines de milliards, et dans laquelle t'auras cru au début, t'auras mis beaucoup d'argent, et qui te le rendra bien, tu vois. Il y a ce fantasme-là. Donc, d'abord, hein, est-ce que ça va arriver? Je pense. Est-ce que ça va arriver dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans? Je sais pas. Mais il y a quelque chose autour de ça qui, moi, me travaille un peu. Et puis, j'ai aussi l'impression que ça justifie tout le reste, tu vois. Parce qu'on a plein de petites victoires, mais tu vois, la grosse victoire, c'est celle qui, en fait, qui te dit, putain, c'est pour ça que j'ai fait tout ça, quoi. Alors, c'est un peu le pinnacle, tu vois, c'est ta médaille d'or des Jeux Olympiques, quoi. Et donc, ouais, j'aimerais bien.
C'est quoi les 2-3 licornes que tu as en course, là?
Non, mais il y a plein de boîtes qu'on aime bien, mais tu vois, on a une boîte, par exemple, aux États-Unis qui s'appelle Dagger, qui a été financée par Solomon Hayes, qui est le cofondateur de Docker. C'est une boîte très technique, mais moi, j'aime beaucoup le garçon, j'aime beaucoup la boîte. Je pense que ce qui fait un potentiel énorme sur son marché, qui est un sujet très technique, hein, donc je ne vais pas te bassiner avec ça, mais c'est partie d'entrepreneurs dans lesquels je crois beaucoup. Il y a évidemment Antoine Martin, le fondateur de Zenly, qui a créé sa nouvelle boîte qui s'appelle Amo, dans le social consumer, et qui est à la fois un garçon hyper généreux, et hyper talentueux, et hyper bosseur, et qui est très bien entouré. Et donc, tout ce que tu souhaites, tu vois, c'est de réussir extrêmement bien. Et après, il y en a plein d'autres auxquels je pense, mais je vais m'arrêter là. Mais ouais, on a plein de boîtes qui sont sur ce chemin-là, et t'as envie qu'il y en ait 3, 4, 5 qui deviennent vraiment iconiques, quoi.
Bon, bah, rendez-vous dans 2-3 ans pour voir le résultat, alors.
Putain, yes. Ça serait bien dans 2-3 ans, dis donc. 2-3 ans, c'est demain, hein, ça va vite, hein.
T'en as déjà donné pas mal au cours de notre échange. Est-ce qu'il y a des hacks que tu utilises au quotidien et qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel, qui te donnent l'impression vraiment de faire la différence et puis de donner le meilleur de gens?
J'en ai pas en particulier, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je suis un chasseur de non-sens. Si, tu vois, je fais pas de brainstorm à moins que c'est vraiment un sujet qu'il mérite. Je rentre pas dans des discussions sans agenda clair. C'est mon côté ultra rationnel, ultra cartésien, ultra pragmatique, ultra, je te dis, chasseur de non-sens, qui fait que je suis une machine au quotidien. C'est tout. et ça me sert énormément. Et c'est ça qui fait aussi que dans les conversations avec les entrepreneurs, je peux scouter des sujets très vite et qu'on va rapidement arriver au cœur des sujets et pas traînasser ou tourner en rond autour de fioritures, quoi. Je pense que les entrepreneurs apprécient ça. C'est que quand ils sortent d'un échange, ils se disent « Ah, cet échange, en fait, il était énergisant, c'était les bonnes questions et ça m'a donné envie de bosser avec eux. »
Est-ce que il reste de la place pour la sérendipité, pour le hasard, pour le fait d'une conversation qui n'avait pas forcément d'objectif déterminé, mais qui t'a amené pile à l'endroit où tu devais aller?
Tout le temps, plein. C'est mon quotidien, ça. En fait, moi, la moitié de mes interactions sont des interactions qui ne sont que le fruit du hasard ou qui sont que le fruit d'opportunités saisies. Tu vois, le dernier deal que j'ai fait, c'est un entrepreneur qu'on m'a présenté il y a 2 mois, que j'ai vu en personne il y a 1 mois, et c'était pile au bon moment pour lui et pile au bon moment pour moi, et donc on a connecté tout de suite et je l'adore et je me dis putain, c'est génial, entrepreneur comme ça, on a envie de bosser avec lui en fait tout le temps, quoi. Et donc et ça, c'est la sérendipité. Et il y en a plein d'histoires comme ça. Zenmi, Antoine Martin, c'est de la sérendipité, tu vois. Et donc j'en ai beaucoup, donc c'est pour ça que je reste, c'est pour ça que c'est important d'être efficace, que être efficace c'est aussi se garder de la bande passante pour justement pouvoir saisir les opportunités qui arrivent, tu vois, et auxquelles tu t'attendais pas. Mais si t'es trop occupé et qu'en étant pro ou que t'es trop préoccupé, en fait, malheureusement, tes chakras sont pas ouverts, quoi. Et dans ce cas, c'est difficile d'aller saisir les opportunités.
Du coup, tu te gardes toujours dans ton organisation hebdomadaire une zone tampon qui te laisse de la place justement pour saisir les opportunités?
Je ne suis organisé qu'à 80% du temps. J'ai 20% de buffer systématiquement. C'est ce que je conseille à tout le monde d'ailleurs.
Ouais. Ouais, même ne serait-ce qu'en termes de gestion de la charge émotionnelle, ça doit être beaucoup moins stressant que d'être toujours à 100% et puis d'arriver à la fin de la journée en disant putain, j'ai pas fini ma journée. Et du coup, il y a quand même une grosse frustration liée au fait de pas réussir à atteindre et à traiter tous les objectifs qu'on s'était fixés.
Ouais, c'est clair. Et alors là, en ce moment, bon, là, c'est une journée particulière, mais tu vois, entre aujourd'hui et hier, j'ai reçu beaucoup d'emails. Je me dis, putain, mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Et en fait, là, je sais que je suis dans un tunnel. Et dans ce cas-là, je préviens mes proches. Je leur dis, attention, tunnel. Ils savent que ça va durer 24, 48 heures, une semaine, 2 semaines, mais qu'il y a un tunnel en cours, là. Et je le sens, en fait, quand le rythme change.
Ouais, on en revient un petit peu à cet équilibre dont je te parlais tout à l'heure. Malgré tout, ça reste une homéostasie, c'est-à-dire que on cherche toujours des lignes droites alors que la vie est faite de sinuosidales, et c'est aussi le cas là-dedans. T'as ta baseline. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi le parallèle qu'on peut faire avec le télétravail VS quand t'es à Paris. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. J'habite à Évian, au bord du lac, et mon quotidien est plutôt casanier avec mes routines, mon lac et mes montagnes et la nature et une belle organisation de mon temps, et je me sens bien comme ça. Et puis quand je monte à Paris, c'est l'effervescence sociale. C'est un marathon de rencontres où j'en ai matin, midi, goûter et soir, parce que j'y vais pour ça et donc j'en profite à fond, et ça change complètement mon organisation, mais c'est ok, tu vois. Et cet élastique entre les deux est assez chouette aussi. Alors que si j'avais cherché une espèce de méthode ou de formule magique qui fonctionne dans 100% des cas, et ben j'aurais jamais trouvé cet équilibre qui en réalité me convient parfaitement.
Bah, entièrement d'accord. Et d'ailleurs, beaucoup de gens en fait sont parisiens et vont te dire non mais moi bouger en dehors de Paris, jamais. Beaucoup de gens ne sont pas à Paris et te disent « Ah, moi, aller à Paris, jamais. » Moi, je trouve que la combinaison des deux est formidable parce qu'effectivement, c'est deux salles de sciences et que ça se complémente très, 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 très bien.
Y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis depuis que tu as écrit Human Machine?
La méditation, hein, j'en fais plus. Donc ça, j'ai clairement changé d'avis.
Tu as remplacé par quelque chose d'autre ou pas?
Non. Non, je vais pas remplacer par quelque chose d'autre.
Du coup, t'as juste gagné 20 minutes de plus par jour, quoi.
Ouais, écoute, du coup, je me dis que le fait d'être assez contemplateur par nature peut-être m'aide à méditer parfois. Je m'invente des excuses, écoute, tout va très bien. Et donc là-dessus, j'ai pas changé. Donc ça, c'est le truc que j'ai, voilà, qui est plus dans mon quotidien. Et après, par rapport au reste, non, ça n'a pas changé. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que si tu me demandais aujourd'hui est-ce que tu réécrirais Human Machine si tu en avais l'opportunité, la réponse serait non. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de cas, il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai fait en me disant « Ah, si je le referais, ben non, je ne le referais pas. » Tu vois, j'ai trouvé que c'était hyper difficile parce que je l'ai écrit en anglais, il a fallu que je le fasse traduire en français, après il a fallu reprendre la version française, puis après il a fallu réorganiser. En fait, c'est beaucoup de lecture sur relecture. et ça devient vite pénible. Et en fait, c'est devenu un poids, alors qu'au début, je croyais que c'était pour moi un exercice de libération.
Après, tu as trouvé une autre voie d'expression avec Substack qui, en réalité, te donne la tonalité et la liberté que tu cherches.
Oui, et puis comme j'aime bien écrire vite, pas longtemps, d'une traite, en fait, j'aime bien ce format-là. Tu vois, je me pose sur mon ordinateur, je choisis un sujet et boum, j'attaque. Et alors parfois le sujet va être intéressant, parfois il va pas être intéressant, mais je le fais pas pour plaire, je le fais parce que j'espère extraire des informations et qu'une fois de temps en temps, il y a un truc qui va être utile, tu vois.
Ouais, franchement, elle est super à lire. Je mettrai le lien dans l'article lié pour que les auditeurs puissent s'y abonner. Et puis bon, malgré tout, même si tu l'aurais pas écrit, Human Machine, je trouve que c'est un livre intéressant parce que comme j'ai quand même l'impression, peut-être que c'est une idée reçue, hein, mais que dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de justement d'idées reçues, de ouais, il y a plein de choses qui dysfonctionnent un petit peu et il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui s'intéressent à leur santé mentale, à l'organisation, au fonctionnement des organisations et du management, qui distillent des valeurs comme tu le fais. Et je pense que ce livre a une utilité dans ce contexte parce que jusqu'à maintenant, la littérature est plutôt tournée sur le business, sur comment est-ce que tu optimises ceci ou cela, mais pas assez sur comment est-ce que tu optimises celui qui le gère, comment tu optimises le capitaine ou ceux qui y bossent. Et donc, je trouve qu'à cet égard, et de par la légitimité en plus que tu as acquis par ton poste chez Kima, il participe et il apporte quelque chose à la société. Tu vois, on parlait de sens et du fait d'avoir le sentiment de laisser une trace positive derrière soi. Et ben, je pense qu'en faisant ça, à défaut d'avoir pour l'instant une licorne à ton catalogue, tu as participé.
Oui, je suis très heureux du résultat. Tu sais, on a vendu plus de 10 000 exemplaires et tout, et je reçois régulièrement des messages et ça me fait toujours très plaisir. Donc j'ai pas de regrets, au contraire, j'ai beaucoup de gratitude pour cette expérience qui m'a été donnée. Et c'est cool, quoi. Franchement, c'est cool. Je suis très heureux, quoi. Mais c'était waouh, ouais, c'était intense.
Je pense que je peux deviner un petit peu ce que tu vas répondre à cette question, mais est-ce qu'il y a une leçon de vie que tu aimerais donner, transmettre à tes enfants, à tes trois enfants?
Je le vois en fait dans leur quotidien, tu vois, ma fille, elle est... Donc on a failli, donc, quand ma femme est tombée enceinte de notre fille, elle a attrapé la toxoplasmose, et donc du coup, la toxoplasmose, c'est dangereux, hein, pour un enfant, pour la grossesse. Et en fait, il fallait soit la garder, soit ne pas la garder. En fait, on n'avait pas le choix parce que c'était maintenant ou jamais, quoi. Donc c'est assez difficile comme décision à prendre. Bon, du coup, on l'a gardée. Et ce que je disais à ma femme à l'époque, c'est bah écoute, si elle aura des déficiences, quelles qu'elles soient, ce sera quand même notre fille et ce sera génial. Et on fera avec. On a eu de la chance parce que avec les médicaments et tout, finalement, tout s'est très bien passé. Il y a eu zéro séquelle. Mais du coup, je pense que tu transmets aussi à l'enfant un peu ce stress, quoi. Et ma fille, elle est assez hyperactive. Elle a un peu un stress de l'abandon alors qu'on est hyper présent. Donc il y a ce truc-là. J'ai un enfant numéro 2 qui lui est sur les rails, sait ce qu'il veut faire, se contente de peu, fait son petit bout de chemin, et un aîné qui là a 13 ans et qui commence à se chercher et qui est en stress de pas savoir ce qu'il veut faire plus tard dans la vie. Donc ce que j'invite tout le monde à faire, c'est trouver le chemin de la sérénité. C'est la seule chose qui compte, quoi. Parce que la sérénité, en fait, les gens parlent tant de bonheur, mais en fait, le bonheur, c'est probablement une extension d'une première étape qui est une étape de sérénité, quoi. Il faut aller trouver ce petit truc. C'est important de trouver cette sérénité. Elle est essentielle. Et donc, on n'en parle pas assez. Mais il le faut. Et ça veut dire la sérénité avec soi-même, du coup, avec les autres, avec l'environnement qui nous entoure, avec les choix qu'on fait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de se regarder dans la glace et de faire des choses qui sont vraies par rapport à nous-mêmes, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et d'un autre côté, là, tu vois, quand tu parles de trouver la sérénité, tu te montres toi et puis tu montres trouver la sérénité pour soi. Et je suis d'accord avec toi, mais j'ai le sentiment qu'on s'inquiète souvent pour des choses extérieures. Tu vois, je pense qu'il y a deux grandes peurs un peu générales. La première, c'est la peur de pas être aimé. Bon, ça peut prendre plein de formes, mais ça fonde notre besoin de reconnaissance de plein de façons différentes. Tu vois, peut-être que d'ailleurs le fait de faire des Iron Man ou des trucs comme ça répond aussi en partie à cette volonté d'être aimé et reconnu par par les autres. Donc ça, c'est la première grande peur. Et la deuxième, c'est la peur de manquer. La peur de manquer parce qu'elle est liée à notre... aujourd'hui, on sait qu'on peut survivre parce qu'on a un toit, on a la nourriture à profusion, etc. Mais comment se caractérise ce conditionnement génomique, on va dire, eh ben, dans la peur de manquer, de pas avoir assez d'argent, qui renforce en plus la partie, enfin qui se double avec la partie la peur de pas être aimé, parce que on a l'impression que le statut social est un prérequis nécessaire au fait d'être apprécié et d'avoir d'être valorisé par les autres. Et donc tout ça, c'est deux peurs qui te poussent sur l'extérieur plutôt que de chercher à l'intérieur de toi cette forme de sérénité.
Hyper intéressant cette histoire de regard de l'autre, parce que je pense que c'est vrai. Mais la sérénité, c'est aussi s'entourer de gens qui nous le rendent bien, tu vois. Et on a souvent tendance à s'entourer et pas se demander, mais on se demande pas de qui on est en train de s'entourer, quoi. Il faut être plus intentionnel au quotidien. Les gens sont pas assez intentionnels. Ils se laissent trop porter par l'autre.
Et d'ailleurs, sur cette question, c'est Mathieu Stéphanie qui aime bien dire ça dans Génération de Vie sur Self. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et moi, j'aime bien préciser un petit peu cette citation en disant que la première personne qu'on côtoie le plus, c'est nous-mêmes, donc notre discours interne. La deuxième, c'est potentiellement les réseaux sociaux et puis les médias, etc., qui ont tendance à entretenir une forme de biais de négativité parce que pour faire de la tension, etc., c'est Halloween tous les jours dans les rédactions, et ça nous montre, à mon avis, une image de l'humanité qui est biaisée. Et la troisième, quatrième et cinquième personne, c'est souvent nos collègues de boulot. Et nos amis, ceux à qui on pense en priorité, eh ben, ils arrivent généralement bien plus bas dans cette pyramide.
C'est vrai.
D'où l'intérêt potentiellement d'être serein avec soi-même, d'éviter de trop regarder les réseaux sociaux et les médias, et puis de travailler dans une boîte qui nous inspire avec des gens qui partagent des valeurs communes plus que simplement chercher un salaire et une adéquation de fiche de poste.
Eh ouais, mais qu'est-ce que tu veux ? On est formé par la société qui nous entoure, quoi. Mais il faut s'en extraire un peu. Faut pas tomber dans les théories du complot ou tomber dans des extrêmes, quoi. Mais il faut arriver à s'extirper un peu du mode automatique dans lequel on s'est mis.
T'aurais un prochain invité à me recommander pour parler de potentiel humain ? Plein.
Potentiel humain, plein, plein, plein. Moi, évidemment, le premier que je pense, c'est mon coach, parce que en triathlon, parce que c'est un garçon qui est ancien commando de l'armée de terre, qui a vécu la guerre, qui a beaucoup de ses proches qui, évidemment, ont subi les conséquences psychologiques de ça, lui y compris. Et qui a ensuite réussi à se reformer au travers du sport, quoi, et de cette discipline. Et c'est assez, c'est assez costaud comme chemin de vie.
Super intéressant. J'adhère au pitch. Je veux bien que tu nous mettes en relation, du coup.
Avec grand plaisir.
Où est-ce qu'on te suit, Jean ? À part ta newsletter ?
Ma newsletter sur 2LR.com, évidemment, sur LinkedIn où je suis de temps en temps, Twitter un peu moins quand même. Et après, j'essaie de créer un peu de contenu sur Insta, mais j'ai pas encore trouvé le bon format. Et sur Strava pour les courses. Et voilà.
Et si on veut bosser avec Ima, on t'envoie un pitch deck par mail.
Un mail, toujours un mail. Je réponds toujours.
Ok. Y a un sujet qu'on n'a pas abordé dont tu aurais aimé parler ?
Je pense qu'on va parler de plein de trucs là. En plus, tu m'as posé pas mal de questions pièges, mon vieux. Ça va maintenant.
Bon, et puis en plus, tu nous as confié que tu étais dans un tunnel de réponses mail. Alors, je vais te laisser retourner à cette dure tâche. Je te remercie du fond du cœur d'avoir passé 1h40 à partager un petit peu de ta vie, puis aussi de ton parcours, de la sagesse que tu as pu en tirer. Et puis, tu vois, tu parlais de sérénité, etc. Et ben, malgré le fait que tu sois dans ce tunnel de réponses de mail et puis que tu doives consacrer 2 heures à ce podcast, et ben, le sourire n'a pas quitté ton visage. On sent cette énergie, cette intensité dans chacune de tes réponses, et je pense que c'est la plus belle traduction de ce mindset et de ce que tu as essayé de partager et de transmettre dans ce podcast.
Et ben, c'est vraiment sympa, mon vieux, ça me fait plaisir d'entendre ça.
Merci Jean, cool. À plus. Bye.
À plus David, bye.
Tu connais l'effet papillon ? Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.